With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Tous ravis de vous retrouver pour Soir Info Week-end. À la une ce vendredi, les atteintes à la laïcité se multiplient dans les écoles françaises. Les recteurs ont été alertés par deux fois sur une offensive islamiste alimentée par les réseaux sociaux. Des élèves détournent la loi de 2004 pour mettre en avant des vêtements religieux dans les établissements scolaires. L'État en fait-il assez? On en parle dans un instant. Le ministre de l'Éducation nationale, justement, Pape Ndiaye, a tenté ce vendredi de clarifier ses propos après ses déclarations sur le concept de race lors d'une conférence cette semaine aux États-Unis. À quoi joue Pape Ndiaye? Je vous poserai la question dans Soir Info Week-end. Et puis à Stain, en Seine-Saint-Denis, une plaque en hommage à la première femme de Mahomet divise. Un projet soutenu par le maire qui se défend de tout prosélytisme. Vous entendrez l'échange musclé avec Jean-Marc Morandini ce matin sur CNews. Et pour commencer cette première heure de Soir Info Week-end, un plateau 5 étoiles avec Karima Bric. Bonsoir Karima.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver ce soir dans Soir Info. À votre gauche, Marc Varnaud, chef d'entreprise.
Bonsoir Elliot.
Cher Marc, merci d'être avec nous. Philippe Guibert est à votre droite. Faites attention parce qu'il parle beaucoup Karima. Donc vous allez jouer des coudes. Vous avez le droit de les frapper, d'accord?
Philippe. De les frapper.
Ah bah pardonnez-moi. Vous avez le droit de jouer des coudes gentiment avec.
Ouais, mais il n'y a pas de gradation dans les violences.
C'est vrai. On verra. Maintenant, il y a une jurisprudence. Ça s'appelle la jurisprudence Bompard, dont on parlera dans un instant. Paul Melun, bonsoir. Merci, c'est gentil de me dire bonsoir. Paul Melun, bonsoir.
Bonsoir, Elliot, et bonsoir à tous.
Et comme on est cinq sur ce plateau, Jean Messia, merci d'être avec nous. On fait un tour de l'actualité, les informations principales de ce vendredi, et on avance. Et on va perdre malheureusement notre sourire puisque je vais vous montrer des images terrifiantes dans un instant d'un garçon de 14 ans qui a été lynché à la sortie de son lycée. Et deux personnes ont été interpellées. On sera avec Jean-Christophe Couvy qui va nous expliquer ce qu'il s'est passé. D'abord le point sur l'info.
Un projet d'attentat terroriste en Islande déjoué. Il s'agit du premier de son histoire. Il visait des institutions étatiques. Mercredi, quatre Islandais d'une vingtaine d'années ont été interpellés en banlieue de la capitale Reykjavik. Les autorités de l'île, se disent surprises de cette annonce et attendent d'en savoir plus dans cette affaire. Les États-Unis veulent faciliter l'accès à Internet en Iran. Son accès a été fortement limité par les autorités après la mort d'une jeune femme arrêtée par la police des mœurs. Drame qui a poussé de nombreux Iraniens à manifester dans environ 80 villes depuis une semaine dans le pays. Le prix des paquets de cigarettes pourrait de nouveau augmenter, c'est le journal Les Échos qui le révèle. Il pourrait passer d'environ 10,30 euros actuellement à plus de 11 euros. Lors du précédent quinquennat, Emmanuel Macron avait déjà augmenté le prix du paquet en novembre 2020. Et puis l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse en France. Le nombre de cas positifs a augmenté de 57% en une semaine, soit plus de 30 000 cas en moyenne sur 7 jours. Ce rebond de BA5 sous-variant d'Omicron est particulièrement important chez les moins de 16 ans.
Voilà pour le point sur l'information. Jean Messia, Philippe Guibert, Paul Melun, Marc Varnaud et Karima Bric donc pour commenter l'actualité ce vendredi. On va commencer par ces images qui sont terrifiantes et parce qu'elles sont d'une extrême violence, on a préféré ne pas montrer la séquence en vidéo. Donc vous allez voir des images figées. Lundi, vous avez un adolescent de 14 ans qui s'est littéralement fait lyncher par des groupes de voyous à la sortie du lycée de Jouy-le-Moutier dans le Val-d'Oise. Miraculeusement, je dis bien miraculeusement, il s'en sort avec 5 jours d'ITT. Donc c'est grave, bien sûr. Mais c'est tellement violent, puisqu'il prend des coups sur la tête, il est à terre, vous avez pas moins de 10 personnes qui arrivent, qui le frappent, littéralement, qu'on se dit qu'aujourd'hui, c'est un miracle qu'il soit en vie. La vidéo circule sur les réseaux sociaux depuis mercredi. La victime a expliqué aux enquêteurs ne pas savoir pourquoi il a été violenté. Deux individus ont été interpellés. Et ce qui est intéressant, c'est quand on voit le pédigré de ces deux individus qui sont françaises, deux voyous français. Ils ont 14 et 15 ans. Ils sont connus des services de police, l'un pour vol, et l'autre pour outrage. Donc moi, je mets en parallèle cette agression d'une extrême violence avec ce qui a pu se passer avec cette femme de 89 ans à Cannes, où vous avez finalement vous n'avez plus de limite dans la violence et dans l'agression. Paul Melun.
Oui, effectivement, on assiste à une multiplication de ce type d'agressions. On a peine à croire que ça se trouve en France. Vous parliez de cette dame à Cannes, on pourrait aussi parler du jeune Yanis à Montgeron. Mmh. Et une agression homophobe absolument abjecte, un peu sur le même modus operandi, si je puis dire. C'est-à-dire, le jeune est à terre, il se met à 10, 15, 20 autour de lui, et puis c'est un massacre. Voilà, mmh. C'est tout. Et probablement même que ça pourrait conduire à un homicide si jamais il n'y avait personne autour pour les séparer. Ou... Là, on voit à la fin de cette vidéo, dont je ne veux pas tout dévoiler, mais effectivement, à la fin, on voit qu'il y a une tentative d'écarter, un peu comme avec le jeune Yanis. Ce qui, effectivement, a peut-être évité à ce jeune de peut-être mourir. Parce que là, la violence des coups est impressionnante. Et effectivement, on assiste à une multiplication. Ce sont des images qui sont absolument terrifiantes. Et si vous voulez, pendant ce temps, on en parlera peut-être, notre ministre de l'Éducation qui semble faire peu cas, disons, de ces violences endémiques qui se développent un peu partout sur le territoire.
Et il a mis 10 jours pour se rendre à Caen pour soutenir cette enseignante qui avait été agressée. 10 jours. Donc j'imagine que dans 10 jours, il parlera de cette adolescente de 14 ans qui s'est fait lyncher littéralement par des personnes et très peu de réactions politiques. Il y en a eu une, Éric Zemmour par exemple, des images insoutenables d'une meute de racailles qui passe à tabac un jeune collégien. Les francocides, alors c'est son néologisme, les francocides sont aussi une réalité dans les écoles. Il est plus que temps que nous protégions nos enfants. Je rappelle quand même que les deux personnes qui ont été interpellées sont françaises. Non. Ce sont deux personnes qui ont 14 et 15 ans. Avant... De nationalité française.
Voilà, mais elles ne sont pas françaises.
Bah, elles sont de nationalité française. Oui. Philippe Guibert, et ensuite je vous donne la parole.
La nuance entre nationalité française et français m'a pas sauté aux yeux.
La nationalité française a été un passe navigo ces 40 dernières années, donc tout le monde est français aujourd'hui.
Bon, passe navigo. Oui. Philippe. D'accord. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est le degré de violence à un très jeune âge. Et c'est ça qui me paraît totalement problématique, parce que comme le rappelait Paul, c'est pas exactement une exception, et ce sont des types de violences qui se répètent et qui se multiplient. Et donc il s'agit quand même, et là c'est pas que le problème du ministre de l'Éducation nationale, même si je suis d'accord que c'est aussi son problème, c'est de comprendre et d'agir sur des très jeunes adolescents qui sont capables de commettre des actes d'une telle violence. Comment expliquer que la violence puisse imprégner une jeunesse de plus en plus jeune? C'est ça, me semble-t-il, le problème de société.
Peut-être que l'une des réponses, ce sont les sanctions, puisque ce sont, par exemple, pour les deux personnes, moi ce qui m'étonne déjà, c'est qu'il n'y ait que deux personnes qui soient interpellées, Karima, alors que vous voyez la vidéo, il y en a une dizaine, et c'est des coups de pied sur la tête, mais c'est horrible, cette vidéo est horrible.
C'est une extrême violence, et aussi ce qui me frappe aujourd'hui, c'est ce rapport qu'on peut avoir donc à l'autorité, à la police, littéralement, on n'a plus peur de la police là, pour plusieurs personnes, plusieurs jeunes personnes aussi. Donc, il y a un discrédit total des autorités policières. Il y a ce mépris affiché. Donc, déjà, quand on observe cette chose-là, on peut comprendre peut-être que pour certaines personnes, on peut se permettre ces violences extrêmes. Et je note aussi une sorte de glorification de la violence, par exemple, sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Et ça, c'est pas unique à la France. Moi, je l'ai observé de l'autre côté de l'Atlantique, exactement. Pour ceux qui le savent, donc, je vivais encore jusqu'à tout récemment, j'étais au Canada. Je viens ici régulièrement, toujours. Je suis installée en France, donc je fais un peu cette comparaison. Et je le vois aux États-Unis, au Canada et au cours des dernières semaines, par exemple, dans une grande métropole, à Montréal, on a vu au cours des dernières semaines une augmentation dans certains quartiers d'événements très violents, l'utilisation des armes à feu, donc une banalisation des armes à feu, une banalisation des violences par les gangs de rue et le sentiment donc totalement d'impunité des gens qui perdent la vie en raison de balles perdues. Mmh. Alors, on est vraiment dans ce niveau aussi de glorification de la violence. Mmh. On va montrer nos armes sur les réseaux sociaux. On va même mettre ça littéralement.
Et c'est important ce que vous dites, parce que souvent, c'est que ça touche tout l'Occident. Quoi.
Absolument.
Parce que ce que vous dites là, on pourrait en parler en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis d'Amérique. Mmh. Tous les pays occidentaux subissent le même fléau de jour en jour, de mois en mois, d'année en année.
On fait le tour de table et ensuite, on ira voir Jean-Christophe Couvi, qui est secrétaire national Unité SGP Police, qui va nous expliquer ce qui s'est passé.
Bon, sur la description des faits et des images telles qu'elles viennent d'être faites par...
Je vous fais le relais du service police-justice de CEDUC.
J'ai pas de problème, je suis désolé. Il faut encore une fois mettre les pieds dans le plat et voir ce que l'on voit, c'est-à-dire une bande dont la majorité, sinon la totalité, est d'origine immigrée, qui lynche ce qui semble être un jeune Français de souche. Voilà. Mmh. Alors, vous disiez que c'était des Français. Oui, effectivement, administrativement, ils sont Français. Mais sauf qu'on oublie qu'à l'intérieur du mot français, il y a l'identité. Je ne pense
donc,
pas, si vous voulez, que
Français
ce qu'on voit,
de souche qui ont
que
commis
ce qu'on
des
voit à l'image là soit représentatif de ce qu'est l'identité française. Je pense qu'il s'agit de traditions tribales. On voit ça dans certains pays africains, dans certaines centres-villes de pays maghrébins.
Madame vient de dire que c'était partout
en pays maghrébins. Oui, mais partout en Occident, parce que dans tous les pays, effectivement, où l'immigration a été incontrôlée et massive sur longue période, il y a effectivement un ensauvagement et une racaillisation de ces pays. Voilà, c'est ça qui arrive. Donc là, si vous voulez, il y a...
Donc il n'y a jamais de Français de souche qui ont commis des actes de violence.
Je pense qu'il y a à la fois une question d'éducation, il y a une question de haine raciale, évidemment, c'est évident, quand on voit ces images. Et encore une fois, ce sont des habitudes, des us et des coutumes tribaux qui n'appartiennent pas à notre identité, et qui signe, encore une fois, et un remplacement démographique. C'est ça, la transition démographique dont parle Emmanuel Macron.
La transition
démographique, ses effets sont sous
vos
yeux.
Vous mélangez tout.
Sous vos yeux.
Marc Varnaud.
Oui, je partage un certain nombre de choses qui ont été dites. D'abord, ce n'est pas tous les pays. Hein. Je crois qu'il faut quand même mentionner qu'un pays comme le Danemark et la Suisse, ça ne se passe pas comme ça.
La Hongrie non plus.
Encore autre chose. Moi, ce qui me choque, finalement, c'est que... Bon, ce qui vous a choqué me choque. Mais ce qui me choque encore plus, c'est que systématiquement, pas une seule fois, je serai en défaut, systématiquement, on a affaire à des enfants, à des jeunes adultes qui sont récidivistes, multirécidivistes. Mmh. Et se pose vraiment la question... De ces 300 000 personnes, hein, ces 120 000 peines de prison non effectuées, et ces 200 000, pardonnez-moi, mais personnes, enfants, adolescents, jeunes adultes, en marge de la société...
14 et 15 ans, les deux personnes qui ont été
interpellées. 10, 20 et 30 cas au casier, et qui ne sont pas condamnés à de la prison, donc eux, ils ne sont pas dans le cas de condamnation non effectuée. Je veux dire, qu'est-ce qu'on attend, franchement, pour apporter une vraie...
Jean-Christophe Couvi est en direct avec nous. Merci d'être avec nous, Jean-Christophe. Vous êtes secrétaire national Unité SGP. Nous, on a besoin de savoir. Déjà, quand on voit les images, et je le répète, on n'a pas voulu mettre la séquence in extenso tellement elle est violente. Et donc, on a figé les images. Mais ce qu'on peut expliquer aux téléspectateurs, c'est que cet enfant de 14 ans qui a été agressé, il est agressé par une dizaine de voyous. Et les images sont d'une extrême violence. Il y a donc deux interpellés. Comment déjà vous l'expliquez? Est-ce que vous arrivez à trouver une explication rationnelle à cette extrême violence?
Bonsoir. C'est une violence alors déjà qui avait eu lieu l'année dernière, en septembre, le 28 septembre 2021. Déjà, il y avait un lycéen de 17 ans qui s'était fait agresser dans le même lycée, à la sortie du lycée, à peu près dans les mêmes situations. C'est une violence qui touche malheureusement toute notre société, toute la jeunesse de notre société. Maintenant, on voit ce qui nous choque tous d'ailleurs. Alors oui, il y a les images violentes. Effectivement, on voit une nuée de personnes qui arrivent. Là, c'est les mêmes. Ils prennent de l'élan, ils reviennent, ils sautent sur ce pauvre gamin là, qui demande rien. Et on voit d'ailleurs que c'est vraiment fait pour faire mal. Ils se rendent même pas compte, ou alors s'ils s'en rendent compte, c'est encore plus grave. Mais vraiment de la portée des coups. Quand on donne des coups dans le visage, dans la tête, comme on shoote dans un ballon, c'est que vraiment, on veut tuer la personne. Donc, il y a une enquête de police. Alors, nous, en tant que policiers, on prend toujours un peu de hauteur, hein, parce qu'effectivement, on pourrait faire des raccourcis. J'ai écouté un petit peu, hein, même j'ai lu, des raccourcis raciaux, etc. Moi, je fais toujours un peu de...
Évidemment, laissez le téléphone.
On prend la hauteur. Ça se trouve, c'est effectivement, il peut y avoir des règlements de compte entre bandes. On sait très bien qu'il y a un contentieux entre les jeunes de Cergy et les jeunes de Jouy-le-Moutier. Enfin, les policiers connaissent un peu cette situation. Donc, on prend de la hauteur, on regarde, on mène une enquête, et après, effectivement, encore une fois, on tirera les conclusions derrière. Mais ce qui choque, ce qui est choquant, c'est que ces gamins-là ont le même âge que les gamins qui ont agressé la dame âgée là, à Nice. Ces gamins-là, on les voit, nous, dans les rues. Des fois, on les retrouve derrière des volants de voitures à 16 ans, 15 ans, qui conduisent des voitures, qui volent des voitures, qui agressent. Et ça nous pose un vrai problème parce que, justement, on recule encore plus cet âge et on se demande jusqu'où on va s'arrêter, quoi. Et surtout, c'est que si on n'ouvre pas les yeux maintenant et que la société ne réagit pas, on va créer vraiment on va revenir comme à l'époque des hommes préhistoriques, en fait, et ça va être la loi du plus fort qui va gagner, quoi.
Oui, c'est ça, c'est la loi du plus fort. Quand je vous écoutais, et je vous ai écouté attentivement, vous avez dit, mais quand on veut porter des coups comme ces individus qui ont porté des coups à cette victime, il y a quand même une intention de tuer quand on met un coup de pied ou qu'on essaie d'écraser la tête de sa victime. Il y a une autre question, c'est l'excuse de minorité, c'est David Lisnard d'ailleurs, vous parliez de l'agression à Cannes pour cette nonagénaire. Qu'est-ce qu'on fait ? On la lève, l'excuse de minorité, 14 et 15 ans.
Si vraiment il y avait une volonté des juges de rendre la justice, mais c'est une tentative d'homicide, c'est 30 ans le tarif. Pourquoi quand des gosses essayent, il faut être clair, d'en tuer un autre, il n'y a pas une tentative d'homicide qui est retenue? Pourquoi c'est jamais le cas? Et parce que là, le tarif, c'est 30 ans. Donc là, le juge, il ne peut pas le condamner à 2 ans de prison avec sursis.
Le plus généralement, il ne condamne même pas à ça.
Le
fait de sous-qualifier permet de
s'exonérer. Il n'y a pas assez de place dans les centres de rétention fermés pour les mineurs.
Mais on n'est pas pour
ça. Vous en créez des places. Si vous pouvez bloquer un pays pendant 6 mois, 1 an, voire 2 ans, du jour au lendemain pour une crise sanitaire, je peux vous trouver des places assez rapidement.
C'est une volonté politique, ce n'est pas le contraire.
Oui, bien sûr.
Si vous voulez, ce qui me choque, moi, dans ces interprétations, c'est cette capacité à s'aveugler quand c'est pas le bon racisme. On imagine, si vous voulez, que là, ça aurait été 10 blancs qui se seraient jetés sur un élève noir comme ça s'est passé là.
Philippe a raison, il n'y a pas de bon racisme.
Philippe Guibert aurait été le premier à sauter au plafond et à faire la danse du ventre en nous expliquant que la France est un pays raciste. En revanche,
c'est pas la danse du ventre non plus.
Quand c'est un blanc qui est tabassé par 10 noirs, bizarrement, là, la composante raciale et raciste, ça disparaît.
En revanche,
comme par magie, il n'y a pas de racisme anti-blanc. Ça a disparu.
Vous ne savez rien de cette affaire. Vous ne connaissez absolument pas l'enchaînement des faits qui a conduit à ce massacre. Et donc,
on a plein d'autres exemples qui montrent que le racisme.
Mais vous faites des généralisations
existe
à partir des éléments que vous ne connaissez pas.
Ça serait d'ailleurs un cheval que vous devriez.
Sur lequel vous ne savez rien, d'ailleurs.
C'est un cheval que vous devriez enfourcher, et la lutte contre le racisme anti-blanc. Ça rapporterait plus qu'un racisme imaginaire que vous êtes en train de combattre.
Ce que je vous propose, en tous les cas, vous parliez, Karima, des réseaux sociaux.
Vous dites n'importe quoi.
Non, mais
dans tous les pays,
Philippe,
il y a du racisme.
Oui, non, mais c'est pas. Mais on va pas. Là, on enfonce des portes ouvertes. Donc,
excusez-moi,
Philippe,
imaginaire, ça n'existe pas.
Il n'y a pas de racisme imaginaire et il n'y a pas effectivement de gradation dans le racisme. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé des réseaux sociaux. Heureusement, finalement, qu'on a ces images-là sur les réseaux sociaux parce que personne n'aurait parlé de cette information et de ce drame-là.
Quand on voit une violence extrême,
on se demande aussi si ça participe.
De plus en plus, justement jusqu'où ça va aller. Et
le fait qu'on ne montre pas dans les médias mainstream ces images rejoint en partie quand même l'analyse que vient de donner Jean, qui est que ça concerne des jeunes issus de l'immigration principalement.
Exactement.
Et que le lien entre immigration et délinquance dérange 90% de la bien-pensance de ce pays.
Jean-Christophe,
évidemment, ça facilite pas les choses.
J'ai une dernière question sur cette actualité-là, et d'ailleurs, ce ne sont pas des faits divers, et j'en ai marre qu'on parle des faits divers pour ces faits-là, ce sont des faits de société. Jean-Christophe Couvi, il y a deux personnes qui ont été interpellées seulement, alors qu'il y en a une dizaine autour qui ont frappé cette victime de 14 ans. J'imagine que l'enquête est en cours et qu'on n'en est qu'au début de l'enquête. Hein.
Oui, bien sûr. C'est le début de l'enquête. On analyse des images, on recoupe par rapport au visage, on essaie de savoir qui sont ces personnes. Certaines ont des capuches parce qu'ils sont habitués aussi à essayer de se couvrir. Et puis petit à petit, voilà, on démêle la pelote de laine, entre guillemets. Et puis on veut savoir surtout dans l'enquête qui a fait quoi, pourquoi est-ce qu'on en est venu là, analyser les contradictions des uns des autres parce que ça ne va jamais être leur faute, c'est pas eux, c'est quelqu'un d'autre, c'est une méprise. Enfin voilà, on a un peu l'habitude de tout ça. Moi, ce qui me choque vraiment, c'est ce manque de bienveillance, d'empathie dans cette jeunesse où en fait, effectivement, on sent que la société, elle est tétanisée. Elle est tétanisée parce qu'on a ce regard sur les mineurs de 1945, en fait. Et on se dit toujours, bah tiens, c'est à peu près les mêmes mineurs. Sauf qu'entre-temps, j'allais dire que le temps a évolué, le temps a changé. Et on voit bien que maintenant, c'est les gamins d'aujourd'hui ne sont plus les gamins d'il y a 30, 40 ans. Et cette société, aujourd'hui, notre société, elle a du mal parce qu'effectivement, on a toujours cette envie de protéger des enfants, de protéger les mineurs. Et d'ailleurs, on ne les punit jamais, on leur donne des mesures éducatives. Et la différence, elle est là. C'est qu'un enfant qui n'a jamais eu de punition dans sa vie ne peut pas savoir où est le bien, où est le mal. Il y a aussi à voir du côté des parents. Il faut aller voir aussi un petit peu du côté des parents. Comment ça se fait que des gamins en arrivent là? Est-ce qu'ils sont entourés par les parents? Est-ce qu'ils sont lâchés dans la nature? Voilà, il y a aussi ce côté social où on sent que ces enfants-là sont livrés à eux-mêmes. C'est des enfants perdus un peu. Et c'est ça qu'il va falloir aussi que la société, je veux dire, se focalise là-dessus et réagisse vraiment. Et pas réagir en fonction, avec des grandes phrases et des grands principes. Non, non, c'est qu'il va falloir que maintenant, nos hommes politiques et les décideurs mettent les mains dans le cambouis et aillent vraiment là-dedans.
Malheureusement, Jean-Christophe Couvi, on ne va pas vous demander de réagir là-dessus, mais vous parliez des décideurs et des responsables politiques. Vous avez des gens à la tête de l'État qui n'ont pas comme logiciel la répression et la réponse pénale ferme. Donc vous pouvez avoir tous les mots et on va commenter ces actualités-là encore pendant longtemps. Mais puisqu'on ne fait rien et qu'on n'avance pas, on va se retrouver à devoir commenter. Autre exemple, qui est là aussi très intéressant, le crack à Paris. Ça fait un an qu'on déplace le problème, qu'on n'a aucune solution. Alors, pour le coup, on a quand même un ministre de l'Intérieur qui a fait la promesse de régler ce fléau-là d'ici un an. Mais vous avez un homme de 92 ans qui a été roué de coups et volé par un toxicomane près de la porte de la Villette dans le 19e arrondissement il y a quelques semaines. L'agresseur a été interpellé et placé en détention provisoire. Quant au nonagénaire, il a été hospitalisé. Ça s'est passé le 9 septembre dernier. Est-ce que vous avez quelques informations là-dessus ?
Écoutez, cette personne-là a été, encore une fois, heureusement, on a retrouvé cet agresseur grâce à la vidéosurveillance. Et oui, encore la fameuse vidéosurveillance, comme quoi elle est très utile, malgré tous les détracteurs. Et puis, nos collègues ont fait une grosse opération deux jours après. Et donc, ils ont recoupé, ils ont retrouvé cet individu, ils l'ont arrêté, ils l'ont interpellé, et la personne a été déférée. Mais encore une fois, le crack, vous savez, ça, c'est terrible parce que les gens sont dans une telle dépendance qu'en fait, ils retrouvent les plus vieux instincts de l'homme. Je parlais tout à l'heure de l'homme préhistorique, mais en fait, on en est là. Et ils sont prêts à taper et presque tuer un individu qui a 90 ans, une personne, un grand-père, qui pourrait être leur grand-père, tout ça pour récupérer 10, 20, 30 euros. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment dramatique d'en arriver là. Et cette drogue est un fléau. Et je sais que mes collègues sont sur le terrain tous les jours et essaient de lutter contre ça. Mais encore une fois, on y arrivera que si, j'allais dire, on ne voit pas que par le prisme policier. Il va falloir vraiment que la société se pose des vraies, vraies, vraies questions. Mmh.
Le prisme politique également, Paul Melun.
Bah oui, le prisme politique, parce qu'effectivement, là, sur le crack, si vous voulez, il n'y a aucune espèce de volonté politique d'en découdre. Excusez-moi. C'est un peu le même sujet que la délinquance des mineurs. C'est-à-dire que la délinquance des mineurs, on en parlait, il faudrait peut-être ouvrir un certain nombre de centres, notamment des centres fermés ou semi-fermés de correction, des maisons de correction, parce qu'aujourd'hui, la délinquance des mineurs, elle explose et il n'y a pas de réponse pénale adaptée. Tant et si bien que les agresseurs du petit Yanis, ils écopent d'un travail d'intérêt général de 35 heures et puis d'un stage de citoyenneté alors qu'ils ont roué de coups un gamin, que c'est une agression homophobe qui aurait pu le tuer. Donc voilà la justice dans notre pays, bravo. Et pour le crack, c'est pareil. Il pourrait y avoir des centres de désintoxication fermés. Ça avait été proposé par Mme Pécresse. Sauf que le problème, c'est que la région étant dirigée par Mme Pécresse, la mairie par Mme Hidalgo et le gouvernement étant macroniste, alors on n'a pas voulu reprendre la proposition de Mme Pécresse. Cette proposition me paraissait être de bon sens. Donc il existe des solutions. C'est comme sur le défi migratoire. Quand on voit ce que font les Danois, il est possible de stopper l'immigration. Mais tout ça dépend de volonté politique. Et la volonté politique de M. Ndiaye et la volonté politique de M. Macron, c'est
on va
que
y
tout
venir,
continue.
De taper une diaille, on va en parler juste après la publicité.
Mais sur le crack, je suis désolé de le dire, c'est aussi l'un des multiples bienfaits de l'immigration incontrôlée et massive.
Tous ceux qui trafiquent
quasi à 100% des immigrés, plupart sont clandestins d'ailleurs.
En situation irrégulière.
Qui n'ont rien à faire chez nous. Alors moi, je veux bien, si vous voulez, qu'en aval, on mette beaucoup de moyens pour traiter, soigner ceux qui sont victimes de ce crack, comme d'ailleurs soit mettre en prison ou ailleurs, dans des centres de rétention, les mineurs. Mais tant qu'on ne ferme pas les vannes de l'immigration, tous les moyens que vous pourrez mettre en aval, ils reviendront à pisser dans un violon.
Je crois que tant qu'on n'ouvre pas les vannes de la gestion de l'État pour libérer les bons budgets, pour les bons ministères, pour pouvoir redonner de l'argent à la justice, redonner de l'argent à l'intérieur, faire en sorte que quand la mairie de Paris crée 5000 postes de policiers municipaux, où ils sont nulle part. Pourquoi? Parce que la police nationale leur a redonné des tâches qu'ils ne peuvent pas assumer. Donc on est toujours dans un jeu à somme nulle. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne se passe jamais rien. On remet de l'argent dans la machine, mais comme on ne gère pas, eh ben, il n'y a rien qui change.
Ouais. Et la réponse n'est qu'impuissance. La réponse n'est qu'impuissance, alors c'est ce qu'on voit et ça continue.
On remercie Jean-Christophe Couvi pour votre témoignage et votre analyse. La publicité. Une mini-question, allez-y vite, Philippe.
Est-ce que vous avez des informations précises sur ce qui a conduit à ce déchaînement de violence à Jouy-le-Moutier? Vous disiez règlement de compte entre bandes. Est-ce que c'est autre chose ou c'est ça?
Non, alors pour l'instant, je n'ai pas assez d'informations, mais je ne crois pas, moi, à la thèse comme quoi des personnes de couleur vont aller lyncher une personne, entre guillemets, française blanche. Voilà. C'est ce qu'on veut dire.
Merci de le dire.
Mais attention, je n'ai pas tous les éléments. Et si c'était vraiment le cas, ça serait vraiment très, très grave. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on prend juste des personnes comme ça au hasard. Justement pour faire
pour marquer le territoire
et montrer qu'on peut venir quand on veut et en fait ils vont attaquer toujours les plus faibles.
Mais Jean-Christophe Couvi, ce qui est devenu terrifiant, c'est que vous avez des zones en France qui sont devenues non pas des zones de non-droit mais des zones d'un autre droit où ce sont les délinquants, les voyous, quel que soit leur âge, ils peuvent avoir 14, 15 ans, qui dictent leurs lois. Voilà, c'est ça la difficulté. Je vous remercie Jean-Christophe Couvi. On va parler de l'école dans un instant, l'éducation nationale qui a mis les académies françaises en alerte sur une offensive islamique. Merci encore et on se retrouve dans un instant. Il est 22h30 et le débat se poursuit même pendant la publicité. Jean Messia, Philippe Guibert, Paul Melun, Karim Abrik et Marc Varnaud sont avec nous ce soir. On va parler de la laïcité qui est en danger dans l'éducation nationale et à l'école avec cette offensive islamique et ces notes qui ont été envoyées aux recteurs, à tous les recteurs du pays, parce que vous avez aujourd'hui des jeunes qui, sur les réseaux sociaux, font des tutos pour porter le voile et arriver à contrecarrer la loi de 2004. On va voir ça dans un instant, mais avant cela, on fait un point sur les principales actualités de ce vendredi.
En Iran, au moins 50 personnes ont été tuées dans des manifestations. Elles faisaient suite à la mort d'une jeune femme après son arrestation par la police des mœurs. Ces manifestations ont eu lieu dans environ 80 villes depuis une semaine dans le pays. 436 corps exhumés en Ukraine. Les cadavres étaient enterrés dans une forêt près de la ville d'Izium, reprise aux Russes. Selon le gouverneur de la région de Kharkiv, 30 d'entre eux présentent des signes de torture. De son côté, Moscou nie avoir commis ces crimes et qualifie la découverte des tombes de mensonges. Et puis du nouveau, dans l'affaire Kaira Amraoui, le secrétaire général du PSG a été entendu cette semaine. Le club de la capitale s'est porté partie civile dans les deux enquêtes, celle pour violence aggravée après l'agression subie par Kaira Amraoui et celle pour escroquerie en bande organisée à l'encontre de César M, ex-conseiller d'Aminata Diallo.
Voilà pour le point sur l'information. Deux notes des services de l'État évoquent en détail une mobilisation de la sphère islamiste sur les réseaux sociaux ciblant la laïcité à l'école. Parmi elles, des appels à porter le kami et prier par les biais des réseaux sociaux. Une première note rédigée par les renseignements territoriaux qui date du 27 août liste les stratégies développées. Et Augustin Donatieu, l'un de nos journalistes, il est allé sur les réseaux sociaux, il a fouillé un peu pour voir comment fonctionnait ce prosélytisme 2.0. Regardez.
Elle se compte par dizaines sur les réseaux sociaux. Ses vidéos postées sur Twitter et la plateforme TikTok en particulier deviennent rapidement virales et font le tour des cours de récréation. Dans la plupart des vidéos, les étudiantes incitent au port de la tenue islamique en se mettant directement en scène dans les établissements scolaires avec une orthographe approximative. Va dire au boss qu'on a repris la zone. Des vidéos d'incitation donc qui vont même jusqu'à expliquer comment tromper l'éducation nationale. Comme celle-ci, vue par près de 300 000 jeunes internautes.
Celle-ci est super pratique pour les étudiantes en lycée, collège ou école, parce qu'elle est rétractable. Comme vous pouvez le voir, c'est une abaya à double tissu qui peut se transformer en tunique. Il suffit juste de rentrer la première couche dans votre bas et c'est fini. Bye bye les surveillants islamophobes.
Des vidéos qui n'ont pas échappé au comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Ce dernier parle de comptes gravitant autour de la mouvance islamiste qui remettent en cause le principe de laïcité à l'école dans le but de déstabiliser l'institution scolaire. Mais bon, il faut que je fasse
comme si de rien n'était. Aujourd'hui, on est complètement dépassé par ce phénomène, Philippe Guibert.
Je ne sais pas si on est dépassé, mais depuis 2004, les milieux militants islamistes contestent cette loi. C'est un point constant depuis un peu plus de 15 ans de combat des militants islamistes, notamment des frères musulmans, qui tiennent un discours assez constant là-dessus. Et donc cette loi, qui est notre fierté, puisque nous sommes les seuls en Europe à avoir voté ce type de loi, qui sanctuarise l'école et qui interdit les signes religieux ostentatoires. On est les seuls. Et donc c'est un point de combat sur lequel il y a des tests permanents de la part des milieux militants islamistes qui aimeraient pouvoir soit contourner, soit remettre en cause cette loi. Souvenez-vous que dans la fameuse manif contre l'islamophobie de 2019, sauf erreur de ma part, c'était un des points soulevés par un certain nombre de militants islamistes qui participaient à cette manifestation. Donc on trouve ce type de vidéo et ce type de tuto sur les réseaux sociaux n'est pas vraiment étonnant, c'est de la suite logique.
Voilà, exactement. On a l'air, on regarde ça, on se dit, on est étonné, il n'y a pas de quoi être étonné. Les jeunes sont sur les réseaux sociaux, on va les chercher justement sur les réseaux sociaux. Et ces messages, ces vidéos, c'est ce qui prend auprès des jeunes. Et par ailleurs, vous parlez de ce modèle universaliste. Donc la France vous menez ce combat. Vous êtes, vous l'avez dit, probablement...
Une exception.
Une exception, mais en même temps, votre modèle, le modèle n'est peut-être pas parfait, mais c'est un modèle honorable, aux objectifs honorables, et vous devez continuer de mener cette lutte. Elle est attaquée de toutes parts.
La France, pays seul sur ce sujet.
Ben oui, oui. J'allais dire...
Le Danemark a fait pour les enfants, pour les crèches. Si vous êtes d'origine étrangère, vous ne mettez pas votre enfant dans une crèche donc républicaine au Danemark, vous perdez vos droits.
Ce que je veux dire,
c'est que... Vous perdez vos droits. C'est-à-dire que les Danois ont compris...
C'est Karima terminé.
On est très jeune.
Laissez Karima terminer.
Ce que je veux dire, c'est que par ailleurs, je trouve que la France, quand même, se laisse un peu, amadouer peut-être par les sirènes, un peu multiculturalistes, le modèle racialiste.
On a juste un ministre de l'Éducation nationale qui baignait dans ces réflexions-là.
J'ai entendu à plusieurs reprises dans les vidéos le mot islamophobe. D'abord, il n'y a pas d'islamophobie en France. La seule islamophobie qu'il y a en France, c'est le revers de la francophobie d'un certain nombre de musulmans qui refusent de vivre et de s'habiller à la française. Si vous refusez le mode de vie français par francophobie, parce que ce mode ne vous convient pas, parce que votre religion, votre manière de pratiquer la religion est contraire finalement au pays dans lequel vous vivez, ça s'appelle de la francophobie. Et donc évidemment, lorsque vous venez avec votre propre tenue, avec vos propres mœurs, vos propres coutumes, imposer ça aux Français, il y a évidemment un rejet de la part du peuple français de ces coutumes-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans les notes de l'Éducation nationale, à aucun moment le mot islamiste ne figure. On parle de tissus, d'habits traditionnels, de vêtements traditionnels. Mais de quelle tradition? C'est des aborigènes d'Australie qui viennent dans nos écoles, des sikhs,
Papa Ndiaye justement à ce propos. Il a réagi.
Si on ne nomme pas, si vous voulez, le problème, on risque pas de le combattre.
Voilà. On écoute Papa Ndiaye qui a réagi cet après-midi.
Si je puis me permettre de terminer,
permettez-vous.
Je pense que là encore, nous avons ce que Emmanuel Macron appelle la transition démographique, c'est-à-dire la poussée d'une autre culture, d'un autre peuple qui vient cette fois-ci par le bas, à la faveur de la démographie, et qui vient changer finalement la culture et l'éducation par le bas. Voilà, et ça c'est très dangereux. Ça s'appelle le remplacement démographique.
Papa Ndiaye, on l'écoute.
Nous sommes attentifs à toutes les manifestations, à tous les signalements qui peuvent être faits, soit sur les réseaux sociaux, soit à l'intérieur des écoles et des établissements scolaires, concernant les atteintes à la laïcité. J'ai annoncé que nous publierons chaque mois des données à propos des signalements opérés par les établissements scolaires. S'il y a lieu, nous interviendrons. Pour l'instant, nous n'avons pas de données clairement établies à propos de la rentrée, mais nous surveillons la situation avec attention.
Paul Melun, il vous rassure ou il vous inquiète?
Il m'inquiète beaucoup. Si vous voulez, là, il se fait plus bête qu'il n'est, le ministre de l'Éducation. C'est-à-dire qu'il fait semblant de ne pas voir une réalité que ses services, pas un complot ourdi par l'extrême droite ou que sais-je, ses services lui remontent. Et effectivement, il suffit de parler à des profs en banlieue, il suffit de parler à des chefs d'établissement, il suffit de parler au corps enseignant dans son ensemble et même jusqu'au recteur pour voir que le navire craque de tous les côtés. Et effectivement, les islamistes, les représentants de l'islam politique s'engouffrent dans les plaies béantes de notre société, dans les divisions intestines qui sont les nôtres, dans une immigration qui n'a pas été intégrée, qui n'a pas été assimilée, et utilisent une défiance anti-française de la part de ces jeunes gens, en l'occurrence ces jeunes femmes avec leur voile ou ces jeunes garçons qui portent des vêtements traditionnels islamiques, pour pouvoir en faire, si vous voulez, des soldats idéologiques d'une propagande qu'ils évoquent effectivement sur les réseaux sociaux à grands coups de discours contre l'islamophobie, largement relayée d'ailleurs par une bonne partie de l'extrême gauche islamo-gauchiste, qui justifie par des thématiques, des concepts comme l'islamophobie un certain nombre de stupidités et qui ferait croire que les Français n'aimeraient pas les musulmans. C'est totalement faux. Il n'y a aucune espèce d'intolérance de la part des Français contre les musulmans. Il y a une intolérance contre le fondamentalisme et ceux qui veulent détruire la culture française. C'est plutôt légitime, je pense, comme préoccupation.
Bien sûr. Ce que je vous propose, c'est qu'on avance un peu. Et puisqu'on parle de Papa Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, cette semaine, a évoqué le concept de race lors d'un déplacement dans une université de Washington. Et d'ailleurs, il a précisé ses propos cet après-midi. Mais je veux d'abord qu'on réécoute ce qu'avait dit le ministre de l'Éducation nationale. Et on entre, Karima, dans ce que vous expliquiez, c'est-à-dire que la France qui défend la laïcité, vraiment une laïcité très concrète, très pragmatique, est aujourd'hui fragilisée par des idéologies qui vous viennent outre-Atlantique, le wokisme par exemple. Écoutons donc ce qu'avait dit Papa Ndiaye, c'était cette semaine, à l'université de Washington, historiquement d'ailleurs afro-américaine.
Le concept de race, comme vous le savez, est encore très sensible en France. Nous sommes actuellement dans un contexte politique où les organisations d'extrême droite sont puissantes, comme aux États-Unis d'ailleurs, et il est difficile d'aborder les questions ethno-raciales de manière nuancée et complexe. Et je peux vous parler du prix à payer si vous osez parler de ces inégalités ethno-raciales.
Ce qu'il avait dit, et puis on va écouter ce qu'il a dit ce vendredi. Il a essayé d'expliquer un peu ses propos, mais finalement on s'y perd, puisqu'il dit l'extrême opposé de ce qu'il avait dit cette semaine.
Vous savez que je suis un homme de nuance, et dans cette université américaine, j'expliquais les différences, les contrastes qui existent entre la France et les États-Unis. Il y a des ressemblances, mais il y a aussi des différences importantes. Et devant cet auditoire américain, je faisais en quelque sorte œuvre de pédagogie en expliquant ce qu'est la laïcité à la française et puis également le fait que la République est aveugle aux différences privées, aux différences physiques. C'est un point de contraste avec les États-Unis.
En fait, qui parle là? C'est l'historien qui est proche des thèses racialistes ou c'est le ministre de l'Éducation nationale?
Je vois absolument pas le problème dans ce qu'il dit.
Vous avez un ministre qui parle de thèse, du concept de race.
Mais le concept de race fait partie des sciences sociales. Il
moi, je pense que la France républicaine pense qu'il n'y a pas de race à part la race humaine. Pardonnez-moi.
Excusez-moi, c'est pas une catégorie politique, c'est une catégorie des sciences sociales. Il a écrit La Condition noire en France, que moi j'ai lu.
Qui est incompréhensible.
Ah non, elle n'est pas incompréhensible. Je suis désolé, Eliott, elle n'est pas incompréhensible. Et donc, il explique que la race n'est évidemment pas un concept ni politique ni biologique, mais que ça devient un concept culturel sur lequel il y a des discriminations. Jean Messia nous en parlait tout à l'heure. Et donc, le fait de parler de race ne veut pas dire que vous justifiez quoi que ce soit. Donc, il ne faisait que constater.
Je termine. Il n'est pas secrétaire d'État d'intégration, il est ministre de l'Éducation nationale.
Mais écoutez, il est invité, comme tous les ministres de la République depuis 50 ans, il est allé faire un discours aux États-Unis ou dans un autre pays sur un sujet, en l'occurrence, qu'il connaît bien, et il revient en France.
Ça, celui-là, il le connaît mieux que les autres sujets qu'il doit traiter.
Il revient en France pour vous dire j'ai essayé d'expliquer que le concept de race aux États-Unis et en France, il n'était pas utilisé.
C'est vrai qu'il sera plus difficile pour lui de parler.
C'est pas ce qu'il dit du tout, Philippe. Il va beaucoup plus loin. Bah, nous explique qu'en France, on a tort dans la République de ne pas reconnaître les différences. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit pratiquer la ségrégation raciale comme l'ont fait les Américains il y a 40 ans?
Pas du tout.
Enfin, attendez, ça a aucun sens. Ça a aucun sens.
C'est pas ça qu'il dit.
Ça a aucun sens. Quand on parle de concept de race, le mot même devrait suffire à nous faire bondir.
Il a dit qu'on pouvait pas aborder le sujet. Il a dit qu'on pouvait pas aborder le sujet en France.
Oui, bah il a dit
à cause de l'extrême droite, ce qui est encore plus.
Oui, voilà. Non, mais là c'est la deuxième.
Excusez-moi, vous déformez.
C'est la deuxième ineptie.
Tu déformes ses propos.
Non, je déforme ses propos. Ses propos, mot pour mot, sont choquants.
Il dit un ministre.
Pas tous en même temps, s'il vous plaît.
Je peux dire du mal de son propre pays. Il va aux États-Unis d'Amérique dire du mal de son propre pays. Le minimum de courtoisie et diplomatie devrait le pousser à ne pas aller dans la langue de Shakespeare, nous critiquer au wokistan auprès de tout un tas de gens woke. Il fait allégeance à sa secte woke. Il est reçu comme une rockstar. Et ensuite, il va critiquer son propre pays alors qu'il est ministre de la République. Il aurait dû être limogé.
Non, mais si personne ne peut s'accorder sur ce qu'il a dit, moi, ce que je propose, c'est qu'on le réécoute en long. Et là, je pense, Philippe Guibert, pardonnez-moi, que vous allez peut-être y voir un peu plus clair.
Mais est-ce qu'on a le droit de dire qu'il y a du racisme en France?
Mais c'est pas ce qu'il dit.
Est-ce qu'on a le droit de le dire?
C'est pas du racisme systémique.
Je me souviens bien. Oui. Parce que sinon, je
voudrais
débattre entre vous.
Oui.
Je réponds juste d'une phrase. Je dis juste qu'il dit qu'en France, on a eu du mal à aborder la question des discriminations raciales.
Mais c'est pas vrai.
Quel regard vous portez sur les déclarations de Papendiaï?
C'est ça sa thèse.
C'est une énormité.
Est-ce qu'ils sont décidés?
Moi, ce que je vois, peu importe, on voit toutes sortes de nuances et tout. Moi, je pense qu'il n'est pas capable de porter la vision universaliste de la France.
Ça, c'est sûr.
Et je pense que de plus en plus, la France n'est pas capable de la porter. Et je ne sais pas pourquoi elle a un modèle qui est fort, ou à tout le moins, elle devrait pouvoir porter ce message-là. Elle n'est pas capable de le faire. Et c'est vrai qu'il y a des générations, je dirais la jeune génération, hein, on parle de wokisme et tout ça a été élevé aussi, a été sevré avec le wokisme.
Ça, ouais. Là, vous avez raison.
Vous savez, moi, je pense par exemple au Québec, par exemple au Canada, si on regarde du côté du Québec, il y a eu pendant des années un cours en particulier, un cours d'éthique et de culture religieuse qui était très, très contesté, qu'on a enlevé. Pourquoi? Parce que c'était un cours finalement pour plusieurs là, qui en faisaient la critique, qui faisaient la promotion finalement du relativisme culturel et religieux. Donc, vous avez une génération qui a été élevée et justement, quand c'est par exemple des vêtements, les symboles religieux ostentatoires, eh bien, c'était de mettre tout sur le même pied d'égalité. Alors, c'est un peu les conséquences de tout ça.
Voilà pour cette thématique. Et puisque vous n'avez pas eu la parole, Jean Messia, moi, je vais vous la donner et vous aurez la primeur sur ce qu'il se passe à Stain, le maire de Stain, ville de Seine-Saint-Denis, au cœur d'une vive polémique, puisqu'une plaque en hommage à la première femme de Mahomet a été déposée au-dessus de l'une des rues de la ville, à la rue de Pontoise, dans le quartier Maroc. Le maire de Stain plaide l'expression artistique de citoyenne et un projet participatif voulant mettre en avant des femmes inspirantes. Voilà, c'est sa théorie et c'est sa thèse. Il était d'ailleurs l'invité de Jean-Marc Morandini ce matin, et c'est très intéressant l'échange qu'il y a pu avoir avec Jean-Marc Morandini. Premier exemple.
Mais comment vous pouvez dire que c'est une forme de provocation? Déjà, ce n'est pas une provocation. Et l'espace public nous permet, en tous les cas, dans les valeurs de laïcité, de parler de tout. Voilà. Et cette expression, je rappelle, cette expression, ce projet, c'est un projet artistique. Ce n'est pas un projet qui a été, je dirais, mis en place par l'église locale, par la mosquée locale ou bien par la synagogue. C'est un projet purement artistique.
Mais qu'est-ce qu'il y a d'artistique là-dedans, monsieur le maire?
Et qui épouse les valeurs de la laïcité. Alors peut-être que nous n'avons pas la même, je dirais, la même interprétation de la laïcité. En tous les cas, c'est un projet qui donne justement à voir le bien vivre ensemble, qui donne à voir la solidarité, la fraternité qui existe dans nos quartiers, et en particulier dans le quartier où les habitantes se sont, je dirais, attelées à travailler sur un projet extraordinaire.
Il va nous donner d'ailleurs un exemple de bien vivre ensemble, le maire de Stain, puisque derrière lui, il y avait le drapeau de la Palestine. Et Jean-Marc Morandini lui pose une question. Pourquoi pas le drapeau de la Palestine? Vous avez dans votre bureau le drapeau d'Israël? Ah non, celui-là, je ne l'ai pas. On regarde.
J'aimerais bien aussi que parfois vous puissiez aussi parler et d'autres, je dirais, d'autres initiatives que nous menons ici à Stain, tant sur le plan culturel que sur le plan, je dirais, citoyen.
Merci beaucoup, monsieur le maire. Juste petite question, parce qu'on voit, il y a visiblement derrière vous, on va remontrer l'image, il y a le drapeau palestinien, il y a le drapeau français aussi quelque part?
Bien sûr, il y a le drapeau français, bien sûr.
Dans votre bureau?
Je crois qu'ils sont côté à côté. Mon bureau est assez grand. Il y a le drapeau français, et puis il y a le drapeau aussi italien, il y a le drapeau marocain, il y a le drapeau de toutes les villes de coopération. Nous sommes en coopération avec l'Algérie, avec le Maroc, avec l'Italie, avec
le drapeau israélien aussi,
avec l'Allemagne. Voilà. Comment?
Il y a le drapeau israélien aussi.
Comment?
Il y a le drapeau israélien aussi.
Non, il n'y a pas le drapeau israélien. Il y a le drapeau palestinien.
Merci, monsieur le maire.
Voilà le vivre ensemble. Sur cette plaque, Jean Messia.
Sur cette plaque, si vous voulez, effectivement, quand vous avez un territoire qui est colonisé, eh bien, vous avez les noms des rues qui s'adaptent aux nouveaux habitants de ce territoire et au nom des histoires des colons. Voilà. En Algérie, quand l'Algérie était française, les noms de rues étaient français. Quand les Français sont partis, les Algériens ont remis des noms de rues qui appartiennent à leur histoire. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne vois pas en quoi la première épouse du prophète a été une femme, alors je ne sais plus comment s'appelle cette exposition, une femme d'exception ou quelque chose.
Inspirante, des femmes inspirantes.
Pourquoi elle est inspirante? Elle a juste été commerçante, elle n'a rien inventé, ni sur le plan scientifique, ni sur le plan politique, ni sur le plan artistique, ni sur le plan littéraire. Enfin, il y a des femmes musulmanes, je pense, qui sont un peu plus inspirantes que la première femme du prophète, si on écarte évidemment le biais religieux. Parce que si cette femme a été choisie, c'est certainement pas parce qu'elle est inspirante sur le plan scientifique ou littéraire, c'est qu'elle est inspirante sur le plan religieux.
Marc Varnos.
Et on retombe dans le militantisme religieux et le salafisme. La preuve, c'est que, et moi ce qui m'a choqué, si vous voulez, dans cette histoire, c'est quand un maire de la République française jusqu'à présent s'exprime à la télé, il s'exprime avec le seul et unique drapeau qui doit avoir droit de citer dans son bureau, c'est le drapeau français. Qu'il y ait d'autres salles avec d'autres drapeaux des pays avec lesquels il fait de la coopération, il n'y a pas de problème. Mais un maire s'exprime devant un drapeau français.
Marc Varnos, autre problématique. Au Sable d'Olonne, la semaine dernière, on l'a traité sur CNews, le tribunal administratif de Nantes, c'est d'ailleurs la cour de tribunal administratif d'appel de Nantes, qui a validé le déboulonnage de la statue de Saint-Michel au pied de l'église Saint-Michel au Sable d'Olonne, alors que la population voulait la maintenir. Et aujourd'hui, vous avez donc une statue de Saint-Michel qui est déboulonnée, et dans une autre ville à Stain, donc en Seine-Saint-Denis, une plaque en hommage à la première femme de Mahomet. Donc j'y vois pas très clair, c'est ça que j'aimerais savoir.
Moi j'y vois assez clair, c'est-à-dire que d'un côté, si vous voulez, on déboulonne une histoire qui est incontestable, et de l'autre côté, on boulonne une histoire qui est très contestable. Dans le cas de Stein, moi je suis, pardonnez-moi, au risque de vous choquer, mais pas d'accord avec l'approche de Jean Messia. Moi je trouve que c'est encore beaucoup plus grave ce qui se passe à Stein. Parce que non seulement, effectivement, il y a le drapeau palestinien derrière le maire, mais on ne voit pas le drapeau français, on ne voit pas le drapeau européen, donc il est peut-être ailleurs, mais on ne le voit pas. Deuxièmement, il y a quand même un conseil municipal qui est effectivement totalement monocolore. Il y a 11 adjoints sur 13, ça doit être un cas unique en France, qui sont effectivement d'origine étrangère.
Oui.
Mais le comble, c'est que là, il y a une conseil municipal délégué à l'intégration qui est voilée. Et donc quand ce monsieur nous explique que la première femme du prophète Mahomet est une femme inspirante, je crois qu'on se fout de nous. Et vous avez raison. Quand la semaine d'avant, on va...
Le voile n'est pas interdit dans l'espace public. Le voile n'est pas interdit dans l'espace public. L'espace public, Marc Varneau.
C'est pas l'espace public dont on parle. On parle d'un élu de la République.
Sur les photos officielles, elle est voilée.
Qui est sur la photo officielle de la mairie, voilée. C'est quand même un truc incroyable.
Je vais creuser, mais je ne savais pas. En 30 secondes, Karima.
Pourquoi n'avoir pas pris d'ailleurs le symbole de Mahsa Amini, cette Iranienne qui vient d'être tuée pour avoir mal porté le voile? Ça aurait pu être là, pour le coup, une femme inspirante pour toutes les femmes françaises musulmanes. Ça aurait été une vraie source d'inspiration, pour le coup.
J'en conviens.
Philippe.
Je pense que là, on a affaire tout simplement à un maire qui pratique le communautarisme le plus échevelé à fin de clientélisme électoral. Mmh. Et que c'est... alors là, c'est énorme, hein, parce que là, c'est une sorte de caricature ou de clientélisme religieux. Et c'est tout à fait scandaleux, parce que c'est contraire au principe de laïcité. Donc là, on est dans quelque chose où je suis même étonné que le préfet, ne se saisisse pas de cette affaire qui me paraît hautement discutable, y compris sur le
plan juridique. Il y a deux choses. Le préfet n'a rien à voir là-dedans, parce que initialement, c'est un projet dit artistique éphémère. Hein. C'est juste pour quelques semaines. Mais évidemment, personne n'est dupe. On sait que c'est vraiment finalement une espèce de guerre de symboles qu'on veut imposer dans l'espace public.
Mais
c'est ce que je vous dis. On n'est pas dupe. On le voit que c'est un message politique et c'est une guerre des symboles qui doivent s'installer dans l'espace public comme ça. Et on voit que ça s'entrechoque.
Non, mais c'est vrai. Pardonne-moi, je vous coupe, Marc Varneau, parce que c'est la publicité et on va revenir dans un instant. Mais je suis en train de regarder l'organigramme de la municipalité. Et effectivement, vous avez une femme qui porte un voile, et en termes de mélange et de mixité.
En charge de l'intégration.
En charge de
la délégation. Elle est en charge de l'intégration.
Ça montre bien.
Ça serait intéressant de sortir peut-être l'organigramme. La publicité, on revient dans un instant. Ce que je vous propose, c'est qu'on parle de la France insoumise. Ah. Grande difficulté, la France insoumise, pour défendre Adrien Quatennens. Nouvelle polémique autour de Manuel Bompard. On va voir un peu ce que vous en pensez, ça va être intéressant d'avoir vos avis. On revient dans un instant pour la suite de Soir Info Week-end. Il est 23h, merci d'être avec nous si vous nous rejoignez sur CNews pour Soir Info Week-end. À la une ce vendredi, à chaque jour, suffit sa polémique autour de l'affaire Adrien Quatennens. Cette fois, c'est Manuel Bompard dans l'œil du cyclone pour avoir tenté de hiérarchiser les violences faites aux femmes. L'extrême gauche prise en flagrant délit de « faites ce que je dis mais pas ce que je fais », on en parle dans un instant. Près de 2 Français sur 3 prennent très au sérieux la menace nucléaire lancée par Vladimir Poutine. Cette semaine, la guerre en Ukraine a pris un tout autre tournant. Vous allez découvrir aussi cet échange ce vendredi entre Alain Delon et Volodymyr Zelensky. Enfin, quelle mouche a piqué Ursula von der Leyen? En marge des élections italiennes, la présidente de la Commission européenne met la pression sur nos voisins transalpins en cas d'atteinte aux principes démocratiques. Si victoire de l'Union des droites, Bruxelles a des moyens de sanction. Alors, ingérence ou non, je vais vous poser la question. Et autour du plateau, Jean Messia, président de l'Institut Apollon, merci d'être toujours avec nous. Philippe Guibert, Paul Melun, Marc Varneau, Karim Abric et Arthur Muriot nous a rejoints. Puisqu'on a parlé de l'éducation nationale et qu'on avait des actualités très lourdes juste avant, moi je veux qu'on revienne un peu sur les décrochages scolaires. Et Arthur, vous êtes journaliste dans notre rédaction et vous m'avez dit, je suis tombé sur une info incroyable. Puisqu'on a trouvé peut-être une alternative pour ramener ces élèves qui décrochent à la raison, entre guillemets, et leur faire apprendre leurs cours d'une manière un peu différente que ce qu'on peut vivre dans une classe. Donc on va voir ça juste après le point sur l'info.
Un projet d'attentat terroriste en Islande déjoué, il s'agit du premier de son histoire. Il visait des institutions étatiques. Mercredi, 4 Islandais d'une vingtaine d'années ont été interpellés en banlieue de la capitale Reykjavik. Les autorités ont fait part de leur stupéfaction et attendent d'en savoir plus dans cette affaire. Le procès des attentats de Bruxelles reporté en cause le retard pris par l'aménagement du nouveau box des accusés. Il devait commencer à la mi-octobre, mais va donc être décalé de plusieurs semaines. Pour rappel, 6 des 10 accusés de ce procès étaient déjà impliqués dans celui organisé à Paris en 2015. Le prix des paquets de cigarettes pourrait de nouveau augmenter, c'est le journal Les Échos qui le révèle. Il pourrait passer d'environ 10,30€ actuellement à plus de 11€. Lors du précédent quinquennat, Emmanuel Macron avait fait passer le prix du paquet à plus de 10€ en novembre 2020. Et puis l'épidémie de Covid-19 repart à la hausse en France. Le nombre de cas positifs a augmenté de 57% en une semaine, soit plus de 30 000 cas en moyenne sur 7 jours. Ce rebond de BA5 sous-variant d'Omicron est particulièrement important chez les moins de 16 ans.
Voilà pour le point sur l'information. Jean Messia, Philippe Guibert, Paul Melun, Marc Varnaud, Karim Abric et Arthur Muriot. Merci d'être avec nous, Arthur. On a beaucoup parlé d'éducation nationale dans la première partie avec des faits de violence extrêmement graves dans le Val-d'Oise. Mais vous, vous avez peut-être trouvé la solution à Arthur pour faire face à la pénurie de professeurs.
Oui, j'ai quelques noms de nouveaux professeurs à proposer à notre ministre de l'éducation nationale, Pape Ndiaye. Alors parmi eux, Kobalade, Fianso, Black M, Joystar. Alors, ces noms ne sont peut-être pas familiers, mais il s'agit de rappeurs très connus. Certains en ont peut-être dans leur playlist. Eh bien, peut-être qu'ils avaient du mal à...
Jean est un fan de Kobalade.
Il n'a que du Michel Sardou, bien sûr.
Bien, ça va vous plaire, Jean Messia. Parce que...
Écoutez.
Parce que pour finir leur fin de mois, peut-être à cause de l'inflation, eh bien, ils se sont reconvertis et ils sont désormais professeurs. Par exemple, vous pouvez trouver la vie de Louis XIV, une journée dans la vie de Louis XIV, racontée, chantée. Par Kobalade, écoutez.
Les journées du roi soleil sont toutes complètes organisées. Suis un programme secret préparé par ses officiels. Le verre et le cocher sont des rituels monarchiques. Il attire le regard et recueille hommage du public.
Et il n'est pas que professeur d'histoire, il est aussi professeur de physique chimie. Écoutez. Oula.
On a formé constitué d'un noyau chargé.
Et cette idée, elle vient d'une plateforme, Sunday Tracks, et ses fondateurs, ils ont une idée, proposer des leçons interprétées par des rappeurs, mais aussi d'autres artistes comme Joyce Jonathan. Le but, permettre une meilleure mémorisation des leçons et donc de lutter contre le décrochage scolaire. Cette application, elle est totalement gratuite, tout est classé par matière, et il y a plus de 1800 musiques pour pouvoir réviser.
Comment bonne idée ou pas, Jean Messia?
Je sais pas, c'est pour le concours de l'ENA et de l'école normale, ça paraît ou pas, hein.
Bon, sérieusement, ça peut... Plus, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée? Tiens, on va faire un tour de table très rapidement et on va parler de la France insoumise, bien sûr, après. Bonne idée ou pas?
Moi, je trouve que c'est une mauvaise idée parce que ce n'est pas conforme au canon de l'éducation traditionnelle. Et je pense que, on peut apprendre, mais avec d'autres sons. Parce que ça, c'est une porte d'entrée vers le rap. Et le rap, comme vous le savez, en tout cas, beaucoup de rap...
Tout le rap
Beaucoup de rappeurs sont très violents. Ils ont des paroles qui livrissent la haine anti-tout, d'ailleurs. Donc, je ne suis pas favorable.
Donc vous êtes contre. Pour ou contre, vous êtes contre. Ouais. Un contre. Pour ou contre.
Moi, je suis plutôt contre aussi. Si vous voulez, j'ai l'impression qu'on veut toujours rivaliser dans quelque chose de ludique, même si les enfants d'ailleurs connaissent pas ce mot-là, on l'avait vu au baccalauréat. Mais en tout cas, on essaie d'être de plus en plus ludique, même sans qu'ils connaissent le mot, pour essayer de les divertir, de les amuser. Non, enfin, je vais faire un peu le vieux con, mais l'école n'est pas là pour être ludique, elle est là pour apprendre. Voilà.
Karim Abric.
Pour instruire.
Ben, je trouve ça quand même assez rigolo, en fait, plus qu'autre chose, je vous dirais. Donc, je pense que c'est vraiment plus un clin d'œil. C'est une porte d'entrée, mais il n'y a personne qui pense que ça va révolutionner votre éducation nationale.
Le professeur que vous êtes.
Je suis d'accord avec ma voisine.
C'est anecdotique.
Je ne pense pas que ça soit décisif. Ouais.
Ah, je ne suis pas sûr que ça soit décisif. Ben, pourquoi pas? Bon, pour une fois qu'il y a une bonne initiative, Marc Varnaud, Kobalade, vous l'avez dans votre playlist?
Bon, je pense que... Pas encore. Mais je pense que si on voulait que l'éducation nationale fonctionne, on ferait mieux plutôt de s'intéresser à la raison pour laquelle les Français sont les plus mauvais en anglais. Et où, pourquoi on a 10% des 860 000 profs qui sont absents. Et ça, si on veut gagner des profs et des heures, voilà, une bonne solution. Et puis pour l'anglais, il suffit pas de d'avoir des rappeurs. Il suffit simplement de mettre les dessins animés en anglais sans sous-titres, comme le fait tous les pays de l'Europe, et on aura une génération qui viendra qui parlera anglais.
Qu'au balader, il faut l'envoyer.
Oui, merci. Allez.
Et deux petites précisions. Les artistes sont bénévoles, donc ils ne sont pas payés pour faire ça. Et deuxième précision, toutes les paroles, il y a aussi des fiches qui accompagnent les chansons, elles sont écrites par des professeurs agrégés.
Bon,
et
maintenant on va faire l'émission.
Comment
en
s'appelle l'appli? J'ai pas noté.
L'application, c'est Study Tracks.
Il va l'écouter, Philippe Guibert. Study
Tracks. Je vais voir. J'ai plus de curiosité.
D'après ce que j'ai regardé,
c'est où, cher Jean Messia?
C'est à partir du collège.
À partir du collège, on peut accéder à l'application avec. Et tout est gratuit. Tout est disponible sur les plateformes de télécharge.
Écoutez, moi, la musique sur Louis XIV.
Pour les 20 ans, c'est
non,
ça
mais
aussi,
la musique de Louis XIV me plaît pas mal. Ah, moi, je pense que je vais la mettre dans.
Moi, j'aime beaucoup. C'est devenu.
J'aime beaucoup. Je vais.
Chanter dans la basilique Saint-Denis ou pas?
On va parler d'Adrien Quatennens. On vous remercie à Arthur Muriot. Vous restez un peu avec nous. Avis de tempête, je le disais, à la France Insoumise. À propos de cette affaire, Adrien Quatennens, pris dans leur propre piège, les députés insoumis sortent les rames et alimentent la polémique. Nouvel exemple ce vendredi matin avec Manuel Bompard, qui est, je le rappelle, le successeur dans la circonscription des Bouches-du-Rhône de Jean-Luc Mélenchon, comme quoi finalement...
Directeur de campagne.
Les chiens ne font pas des chats. Oui, c'était son directeur de campagne, mais excusez-moi, le premier à avoir alimenté cette polémique, c'est un certain Jean-Luc Mélenchon le week-end dernier en soutenant Adrien Quatennens. Et aujourd'hui, il y en a un autre qui remet les pieds dans le plat, c'est Manuel Bompard. Donc j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit lien, une petite filiation. On écoute Manuel Bompard qui fait une sorte de hiérarchisation dans les violences faites aux femmes.
J'essaye de faire la part des choses. Une gifle n'est jamais acceptable, mais une gifle n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. Et une gifle n'est pas égale à une personne qui est accusée de viol après avoir drogué les personnes qui l'accusent. En tout cas, c'est les accusations qui sont portées à son encontre. Ce sont des accusations. Bien évidemment, il y a aussi de la présomption d'innocence. Il faut qu'on arrive sur ces sujets à avoir de la nuance.
De la nuance et face au tollé provoqué, je dis juste qu'il a communiqué, il s'est expliqué par communiqué. Je n'ai jamais dit ni pensé qu'une gifle n'était pas grave. C'est un fait grave et inacceptable et je l'ai rappelé ce matin. Je rappelle seulement des principes fondamentaux, proportionnalité et individualisation de la peine. Moi, je me pose cette question. Ça fait une semaine que les députés sortent les rames, l'extrême gauche prise en flagrant délit de faites ce que je dis, pas ce que je fais, Karima.
Bah oui, complètement. Et puis, moi, ça me frappe quand même. Il dit il faut qu'on arrive sur ces sujets à avoir de la nuance. Mais de quelle nuance parle-t-il exactement? Pour moi, est-ce qu'il y a des petites violences qui sont acceptables? Donc, on va faire la gradation, on va dire oui, mais celle-là, quand même, elle est acceptable. Non. Il y a un moment où vous franchissez un pas. C'est pas du puritanisme. C'est simplement, il y a un fait qui est avéré. Et bon, la ligne a été franchie. Est-ce qu'on peut le dire simplement? Ouais.
Ce qui est formidable, c'est qu'ils arrivent à avoir une nuance. Alors, pour le cas d'Adrien Quatennens, et ils n'ont pas eu de nuance pour le cas d'Amien Abad, comme ils n'ont pas eu de nuance pour le cas. C'est encore pire. Vous voulez que je vous dise pourquoi? Parce que les deux ont dit je suis innocent. Gérald Darmanin et Damien Abad. Les deux, il n'y a pas eu d'enquête. La justice n'a rien dit. Il y a eu des non-lieux. Pardonnez-moi, pour Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, c'est non-lieu.
Sur Damien Abad, il y a 3 ou 4 témoignages et il y a une enquête qui est en cours.
Mais Adrien Quatennens, lui, il a avoué la gifle. Après, sur l'extrait précisément de Manuel Bompard dans lequel on dit qu'il relativise les choses, au risque de vous choquer, si vous voulez, il fait quand même une gradation. C'est un peu, il n'invente pas le fil à couper le beurre, si vous m'excusez l'expression. C'est-à-dire qu'il nous explique en gros que, je sais pas moi, une gifle, c'est un peu moins grave qu'un coup de poing. Un coup de poing un peu moins grave qu'un coup de couteau. Et un coup de couteau mortel est encore plus grave que tout le reste.
Mais
bon, oui, une fois que vous avez dit ça, vous n'avez rien dit.
Non, mais
elle sert, je vais vous expliquer. À mon avis, elle sert à dédouaner son bien-aimé collègue Adrien Quatennens. Et effectivement, on n'observe pas la même nuance et la même prudence de la part de M. Bompard lorsqu'il s'agit d'un opposant politique. C'est là que le « fait ce que je dis et pas ce que je fais » s'exprime. Mais il y a d'autres déclarations d'insoumis qui m'ont davantage choqué, à commencer par celle de Jean-Luc Mélenchon par son tweet qui n'a pas eu un seul mot pour l'épouse d'Adrien Quatennens. Trois heures plus tard, il s'est dédié parce qu'il a bien vu le tollé. Ou le propos, pire encore, les propos de M. Olivier Faure, qui est, je pense, le plus à blâmer dans cette affaire, qui est l'obligé de M. Mélenchon, pour ne pas dire aujourd'hui son laquais, qui a fait une déclaration politique dans laquelle il a dit, M. Faure, qu'il y avait des contextes dans lesquels la gifle, etc., il fallait penser le contexte. Ça, c'est grave, parce qu'il n'y a pas de contexte dans lequel on peut donner une gifle à son épouse. Lui qui est féministe, il ferait peut-être bien de s'en rappeler. Enfin, il dit qu'il est féministe toujours. Donc, la déclaration d'Olivier Faure, elle est grave. Celle de Manuel Bompard, elle est malhonnête, elle est fallacieuse. Elle n'est pas grave.
Moi, j'étais très frappé du fait que cette semaine, sur votre antenne, dans des émissions auxquelles je participais, William Goldnael et Maître Jacques Kubitz, deux avocats habitués qui ont une certaine expérience de ces affaires, ont dit exactement la même chose que Bompard. C'est-à-dire qu'ils ont dit, pas à quoi vous demandiez, à quoi sert la gradation. Elle sert à différencier les peines pénales, notamment. C'est-à-dire qu'une gifle n'est pas...
On dit
pourquoi on différencie une gifle...
Philippe, pourquoi ça n'est pas crédible? Parce que ce sont des personnes qui ont été jugées parties pendant des mois.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que ce qu'il dit, et c'est là le problème de LFI en ce moment, c'est qu'il ferait mieux de se taire, c'est que lorsqu'il répète quelque chose qui est juridiquement parfaitement factuel, qu'ont répété des avocats cette semaine sur votre antenne, à mon avis à juste titre, quand c'est Bompard qui le dit, tout le monde lui tombe dessus. Alors, je pense que si on devait leur donner des conseils de communication, on leur conseillerait vivement d'arrêter de parler sur ce sujet-là, parce que quand bien même il dirait qu'il fait jour à midi, il serait critiqué en ce moment sur ce sujet-là. Après, ils ont une réflexion à mener. Il y a beaucoup de politiques politiciennes dans cette affaire. Je trouve que c'est un peu dommage. Mais ils ont aussi une réflexion à mener. Oui, je suis d'accord avec vous là-dessus. Ça arrive. Et donc, c'est eux qui l'ont inventé de faire de la politique politicienne là-dessus. Évidemment qu'ils ont eu tort. Donc là, ils se prennent le retour de bâton.
Non, mais rappelez-vous, la déclaration.
Je me permets d'ajouter qu'à un moment donné, on va oublier que c'est LFI, que c'est politique. Et on va parler un peu du fond. Et il faudra retrouver un peu de raison façon d'appréhender ces sujets.
Je donne juste la déclaration d'Éric Zemmour hier chez nous dans l'heure des pros. C'est un peu quand on découvre le curé au bordel. On a envie de se moquer de lui car il nous a fait la morale dans des circonstances autres. La France insoumise, c'est la même chose. Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce qu'ils sont en train de subir les foudres du tribunal médiatique qu'ils ont alimenté, je le répète, pendant des mois?
Le problème, c'est... Si vous voulez, c'est qu'il y a deux logiques. Il y a la logique strictement juridique et le fait de strictement juridique, le fait de rappeler qu'il y a une proportionnalité des peines en fonction de des infractions et des crimes. Ça, je veux dire, on enfonce des portes ouvertes. Donc juridiquement,
on les enfonce plus. Ça, non, mais juridiquement,
non mais justement, là, il enferme le débat dans le juridisme pour pouvoir en réchapper. Le problème, c'est que d'un autre côté, il y a une dimension politique. C'est-à-dire que les mêmes qui aujourd'hui nous disent « Attendez, nous on est dans le droit et on vous explique la gradualité et la gravité des crimes et des infractions », c'est des gens qui, lorsque vous leur disiez que quelqu'un qui avait été juste accusé de viol par une femme sans aucune vérification des faits, qu'il est présumé innocent, ils vous disaient « Ah ben non, oui. C'est la parole des femmes qui compte, quoi qu'il en soit, on vous croit ». Donc si vous voulez, le problème c'est que si vous avez réclamé non, pour les autres... une lecture politique, une lecture assassine de choses qui ne sont pas juridiquement établies, vous ne pouvez pas aujourd'hui venir vous réclamer du droit et exciper du droit pour échapper à vos responsabilités. La morale de cette histoire, c'est que quand on s'appelle Manuel, on ne commande pas une gifle.
Marc Vardon.
Je ne l'ai pas là.
Moi non plus, mais on avance.
Je ne l'ai pas, Manuel la
gifle. Je crois que c'est un sujet qui est, pardonnez-moi, mais qui est casse-gueule, parce que d'un côté, il y a énormément d'agressions sur les femmes, il y en a très peu finalement qui se finissent devant un tribunal où les auteurs sont sanctionnés. Et d'un autre côté, il y a énormément d'hommes qui sont mis en cause pour des agressions sur des femmes et qui sont relaxés très rapidement. Et au milieu de tout ça, on se rend compte que quand le commun des mortels lève la main sur sa femme ou sur sa compagne, c'est tout juste, à mon avis, si la police lui répond au téléphone. Mais quand c'est dans la sphère politique, ce qui n'est pas acceptable pour ses opposants le devient pour ses amis. Et c'est vrai que je mets à la place des Français, ils disent « Mais c'est quoi ce foutoir là ?» Il n'y a plus aucune valeur morale nulle part. Moi, ce qui me choque là-dedans, c'est que la LFI est complètement déconnectée de la morale aujourd'hui. Ils passent leur temps à faire des leçons à la terre entière, mais quand ça les concerne directement, tout d'un coup, on inverse le système. Je suis pas certain que même leurs électeurs les suivent là-dessus.
Oui, mais si vous observez finement, il y a quand même des gens, pour une fois, je vais dire du bien d'elle, Sandrine Rousseau, au moins, elle est plutôt loyale et fidèle à ses convictions. Elle a condamné tout de suite. Donc vous avez une division au sein de la NUPES.
Ce qu'elle a fait pour Julien Bayou, validé ce qui s'est passé pour Julien Bayou.
Je parle de Adrien Quatennens. Ah non, là c'est autre chose. Julien Bayou, ce qu'elle a fait, c'est pas terrible du tout.
C'est la fondatrice, certains diraient que c'est la fondatrice.
Il faut regarder au sein de la NUPES comment on traite ce sujet-là de Adrien Quatennens. Il y a le clan Mélenchon, parce que la France Insoumise est extrêmement clanique, à part des rares exclus comme François Ruffin qui sont exclus du clan Mélenchon. Le clan Mélenchon fait bloc autour d'Adrien Quatennens. Chez les écologistes, on est en train de voir une rupture parce qu'effectivement, les néo-féministes ont pris la tête de ce parti et qu'elles veulent manger du mâle blanc hétérosexuel de plus de 50 ans et que donc ça va être très difficile pour Quatennens de s'en sortir. Et puis vous avez naturellement le Parti Socialiste qui est la cinquième roue du carrosse. Mais la NUPES est très divisée sur cette
affaire. Jean-Luc Mélenchon, justement, hier, a eu un geste que certains considèrent déplacé. Il est questionné dans dans la rue, je rappelle les faits, par un journaliste qui s'appelle Paul Gagné, sur son soutien d'ailleurs à Adrien Quatennens. Et il lui dit « Monsieur, je pèse mes mots tout le temps, c'est vous qui regrettez ce que vous faites en train de, ce que vous êtes en train de me dire ». Et ensuite, il lui tapote la joue. Donc, il y a ce geste-là qui a été énormément commenté. Et même Marlène Schiappa, la ministre, a réagi. Écoutez ce qu'elle dit.
Je trouve que ça montre à quel point il n'a pas compris, en fait, les enjeux de consentement et les enjeux de respect du corps de l'autre. Parce que toutes les personnes qui sont attachées à la question du consentement, c'est mon cas, moi, jamais j'irai vous attraper la joue. Jamais. Pourquoi ? Parce que je respecte l'espace personnel de l'autre, je respecte le corps de l'autre et je ne touche pas l'autre sans son consentement. C'est ça en fait qui se joue dans le consentement. C'est ne pas frapper, c'est ne pas abuser du consentement, c'est ne pas abuser sexuellement d'une autre personne. C'est aussi ne pas toucher cette personne. Donc je ne mets pas les choses sur le même plan, je ne dis pas que ça équivaut à une agression, mais il y a derrière une menace en disant vous allez regretter, etc. Et en allant saisir la joue d'un journaliste, qui est un geste pour le moins déplacé envers qui que ce soit, et singulièrement envers la presse. Je veux dire, la liberté de la presse, c'est quelque chose de fondamental pour lequel, encore une fois, la France se bat partout dans le monde.
Comment vous le décryptez, ce geste, Philippe Guibert ?
Je ne pense pas que ce soit un élément majeur de la vie politique française.
C'est-à-dire...
Après, c'est normal, pas Zemmour, c'est pas Le Pen. Donc forcément, c'est
non,
pas
mais
majeur.
Zemmour avait fait la même chose, je dirais la même chose. Je suis désolé, vous êtes dans une logique partisane, moi je ne le suis pas.
Mais j'ai le souvenir que quand Éric Zemmour avait, pour faire une blague, pointé, c'était
un fusil.
Il s'est retourné avec le fusil sur les journalistes, ça avait fait un scandale.
Est-ce que c'est exactement comparable?
Je ne sais pas s'il y a un responsable politique. Je vais pour lui poser une question. Je me mets à la place de ce journaliste.
Comme la gifle et le viol.
Un instant, s'il vous plaît. Je me mets à la place du journaliste. Je pose une question à un responsable politique qui se retourne en me disant « Vous allez le regretter. C'est vous qui allez le regretter » et qui me tapote la joue alors qu'on n'a aucun lien ni d'amitié ni d'inimitié. Je me sentirais effectivement un peu agressé.
Alors d'accord, c'est un geste maladroit.
Ah, maladroit.
C'est
maladroit.
C'est un geste de mépris et de condescendance. Voilà. Et si on se met à se tapoter, là, on s'entend. Bon, si on se met à se tapoter comme ça la joue, puis on tapote la joue des politiciens, je veux dire, où est le respect aussi? Je pense que c'est le minimum qui est là.
Il y a toujours deux poids, deux mesures, si vous voulez, dans l'interprétation de ce que fait la France insoumise. Pour la France insoumise, en fait, pour beaucoup de journalistes, tout est autorisé. On ne commente rien, on ferme les yeux. Pourquoi? Parce que dans l'idéologie de l'extrême gauche, en fait, la fin justifie les moyens. Comme ils s'imaginent et ils se griment en grands révolutionnaires qui veulent apporter le bien et le paradis sur Terre, finalement, tout passe crème. Que vous soyez violent avec votre femme, ça passe crème. La fin justifie les moyens. Que vous tapotiez à la joue d'un journaliste, ça passe crème. La fin justifie les moyens. En revanche, la moindre poussière chez un opposant qui, lui, n'est pas d'extrême gauche et qui n'a pas les grandes ambitions politiques et eschatologiques que vous pouvez avoir, alors là, c'est haro dessus et on lui tire dessus à boulet rouge. Donc, si vous voulez, l'attitude de la France insoumise et de tous les médias gaucho-progressistes qui les protègent, c'est précisément l'objectif final recherché. Leur objectif final recherché, c'est le bien. Donc, comme ils recherchent le bien, bah, tout est autorisé, tout est lu à la lanterne du bien. Et donc, soit minimisé, soit justifié.
Honnêtement, tout le monde lui tombe dessus, à Mélenchon et à Bompard.
France Inter lui tombait dessus?
Ah ouais.
À quelques rares exceptions près, tout le monde lui tombe dessus.
Ah ouais, donc tout le monde lui tombe dessus. Il n'y a pas de médias qui
le protègent. Lorsqu'il dit, Philippe Guibert, je pèse mes mots. Jean-Luc Mélenchon, lorsqu'il dit ça, il faut comprendre peut-être aussi que donc, lorsqu'il avait pu prétendre que la police tue, il l'a
ça,
donc
ça
pesé.
Beaucoup plus grave.
Oui, mais il a donc pesé ses mots. Il a donc pesé ses mots, réfléchi avant de tweeter, la police tue. Et il pense fondamentalement qu'il y a une sorte de violence systémique dans la police.
Ça me paraît beaucoup plus grave. Ça me paraît une déclaration.
Et ben, vous savez quoi?
De première importance, anti-police, ça c'est un fait politique.
Signe que Jean-Luc Mélenchon est en perte de vitesse.
La tapette sur la joue, c'est idiot.
Très bien, oui. Idiot. Signe que Jean-Luc Mélenchon est en chute libre ou en perte de vitesse et un responsable politique en voie de cornérisation. Regardez ce sondage. À la question, diriez-vous que Jean-Luc Mélenchon vous inquiète? En 2017, 38% des sondés répondaient oui. En 5 ans, vous avez presque 20 points de plus, Marc Varneau. C'est-à-dire qu'il y a plus d'un Français sur deux qui se dit inquiété par Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui.
Il a l'air un peu déphasé.
Inquiet plutôt.
Je pense que ça s'explique alors très facilement par la campagne présidentielle, où pendant 6 mois, personne n'a osé s'intéresser à M. Mélenchon, à ses amis, à son programme, à ses amitiés. Je me souviens d'un nombre de fois incalculable quand on osait parler notamment des nouvelles devises que voulait créer M. Mélenchon avec le Venezuela, Cuba, l'Iran et la Chine, tout le monde rigolait. Pourtant, c'était dans son programme. Maintenant que l'on découvre M. Mélenchon depuis les élections législatives, entre guillemets, à visage découvert, et qu'on s'intéresse à lui de près, tout le monde se rend compte qu'il est tout sauf sympathique et qu'il est tout sauf inoffensif. Oui, mais
Marc, c'est pas ça, c'est que le Jean-Luc Mélenchon de 2017 n'était pas le Jean-Luc Mélenchon de 2012 et celui de 2022, c'est ce que je dis, il est en voie de cornérisation, ce n'est pas le même.
Si je puis me permettre, il faudrait faire une généalogie du Mélenchon. Il a évolué. Il y a le Mélenchon nouveau, c'est comme le Beaujolais, il n'est pas fameux, mais il a évolué. Et effectivement, le Mélenchon d'il y a 10 ou 15 ans, quand on suit finement ses déclarations politiques, sur le voile, pour ne citer qu'une déclaration, il disait les femmes se stigmatisent elles-mêmes en portant le voile. Vous imaginez le Mélenchon de 2022 prononcer une telle phrase? Il y a eu un Jean-Luc Mélenchon plutôt laïque, il y a eu un Jean-Luc Mélenchon plutôt républicain, il y a eu le Jean-Luc Mélenchon qui était au gouvernement Jospin, un peu laïcard, qui a été au gouvernement Jospin, qui a été un socialiste bontain, qui a été un sénateur socialiste influent, le patron de la Fédération de l'Essonne, qui était une fédération importante, qui a été un apparatchik, qui a fait sa vie dans la politique, qui a gagné toute sa vie dans la politique.
Jean-Luc Mélenchon.
Et aujourd'hui, effectivement, il a évolué, et par clientélisme politique, par électoralisme, sous la férule et sous l'influence d'un certain nombre de jeunes qui sont woke, déconstruits, etc., il a complètement perdu sa boussole. Et c'est logique qu'aujourd'hui, il soit sanctionné par l'opinion publique.
Le virage de Jean-Luc Mélenchon, il date d'après 2017, parce que 2017, c'est encore une campagne.
Je suis d'accord.
À la tonalité relativement républicaine, qui est l'héritage de ce que tu disais, c'est-à-dire c'était un républicain laïcard, c'est ça la réalité de Mélenchon. Le virage, c'est la manif contre l'islamophobie.
Absolument. La publicité. C'est là le virage. On revient dans un instant. Ce que je vous propose après la pub, c'est qu'on parle de cette menace et la crainte. Il y a plus de 2 Français sur 3 qui craignent la menace nucléaire après les déclarations de Vladimir Poutine. On parlera également de l'Iran et ces femmes qui se mobilisent et ces nombreuses manifestations qui ont fait déjà 50 morts après le décès de Mahsa Amini par la police des mœurs. Et puis on parlera de l'Italie, puisqu'il y a des élections très importantes en Italie, dimanche bien sûr. Et vous avez Ursula von der Leyen, pourquoi elle prend la parole maintenant, qui met un peu la pression sur les Italiens en disant attendez, on a déjà sanctionné lourdement la Hongrie et la Pologne, on pourra faire la même chose avec vous les Italiens si victoire il y a de l'union des droites. Et puis avant la publicité, vous savez Jean Messia, le coffre est plein cousin, viens on y va maintenant, viens on y va maintenant, viens on y va maintenant, regarde-moi bien cousin, c'est de qui ça?
Pas de vous,
Shakespeare.
Faut balader. On en a parlé.
Je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai envoyé.
Le coffre est plein cousin, on revient après la pub. Merci Arthur Mario.
Merci. Trop de bif, je n'irai pas le four.
3h30, la suite de Soir Info Week-end avec Jean Messia, Philippe Guibert, Paul Melun, Marc Varnaud et Karim Mabrik. Le point sur l'information et on va parler de l'Italie dans un instant.
En Iran, au moins 50 personnes ont été tuées dans des manifestations. Elles faisaient suite à la mort d'une jeune femme après son arrestation par la police des mœurs. Des manifestations ont eu lieu dans environ 80 villes depuis une semaine dans le pays. 436 corps exhumés en Ukraine. Les cadavres étaient enterrés dans une forêt près de la ville d'Izium, reprise aux Russes. Selon le gouverneur de la région de Kharkiv, 30 d'entre eux présentent des signes de torture. De son côté, Moscou nie avoir commis ces crimes et a qualifié la découverte des tombes de mensonges. Et puis du nouveau, dans l'affaire Keira Amraoui, le secrétaire général du Paris Saint-Germain a été entendu. Le club de la capitale s'est porté partie civile dans les 2 enquêtes, celle pour violence aggravée après l'agression subie par Keira Amraoui et celle pour escroquerie en bande organisée à l'encontre de César M, ex-conseiller d'Aminata Diallo.
Merci cher Adrien Spiteri pour les points sur l'information ce soir. On va parler de l'Italie puisque les Italiens sont appelés aux urnes ce week-end pour les élections législatives. L'union des droites pourrait bien l'emporter avec comme chef de file Giorgia Meloni du parti Fratelli d'Italia. À Washington, avant de parler d'Italie, on va quand même parler d'Ursula von der Leyen. C'est lié bien évidemment puisque Ursula von der Leyen a prévenu en cas d'atteinte à la démocratie en Italie, l'Union européenne a les outils pour sanctionner nos voisins transalpins comme ça a pu être le cas pour la Pologne et la Hongrie. Pour être clair, Ursula von der Leyen, qui a été élue nulle part, qui est arrivée là, très important, met la pression sur l'Italie avant des élections en disant « faites gaffe, vous voulez jouer avec nous, nous on peut vous sanctionner parce qu'on pourrait considérer que vous êtes un parti devenu un pays d'extrême droite. Et on a d'autres pays d'extrême droite qu'on a sanctionnés. Pologne, absolument. Hongrie. J'ai bien résumé ?
Le sous-texte, c'est regarder ce peuple qui ne vote pas bien, on va le mater. C'est
on ça, écoute c'est... Ursula von der Leyen et ensuite on va se poser la question. Est-ce que c'est de l'ingérence ? Et puis Matteo Salvini appelle à des sanctions contre Ursula von der Leyen ou au moins des excuses. On écoute.
We'll see
Nous verrons si les choses vont dans la mauvaise direction. J'ai parlé de la Hongrie et de la Pologne. Nous avons des instruments. Nous venons aussi d'avoir des élections en Suède. Mon approche est quel que soit le gouvernement élu démocratiquement, nous travaillons ensemble.
Alors, il a un peu changé le son. J'aurais aimé qu'on entende, mais je vais ressortir le lexique exact. Mais ce qu'elle disait, c'est si, en gros, il sort de l'arc qu'on considère démocratique, on pourra le sanctionner, comme on a pu le faire en Hongrie ou Pologne. Marc Varno.
Ça aura l'effet inverse.
Marc Varno, est-ce que c'est de l'ingérence, à deux jours des élections, de tenir ce genre de propos?
Ça, c'est pas de l'ingérence. Je ne sais pas ce qu'est de l'ingérence. Oui, c'est de l'ultra-ingérence. Et comme ça a été souligné, elle a été élue par personne. Et elle est en train de donner des leçons aux électeurs italiens pour leur expliquer pour qui ils doivent voter ou pas. C'est juste pas faire pression que de leur expliquer qu'ils vont être sanctionnés par l'Union européenne s'ils osent ne pas voter comme Mme von der Leyen le souhaite. Je trouve ça totalement inadmissible. Et ce genre de comportement décrédibilise totalement l'Europe.
Je cite in extenso Ursula von der Leyen, si les choses vont dans une direction difficile, voilà. J'ai parlé de la Hongrie et de la Pologne, nous avons des instruments.
Non mais ça surprend. Non mais attendez.
C'est exactement ça.
Mais ça surprend qui? C'est-à-dire que toute l'histoire de la construction communautaire est une histoire en fait antidémocratique. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'acquis communautaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on arrive à un stade d'avancement de l'Union européenne, eh bien la marche arrière est impossible. Et donc un pays ne peut pas voter. D'ailleurs, ça a été rappelé par un autre chef de la Commission européenne qui disait qu'un pays ne pouvait pas voter contre les traités, qu'il n'y avait rien de supérieur aux traités. Donc l'Union européenne est un organisme, est une entité antidémocratique. Ursula von der Leyen n'a été élue par personne. Elle donne des leçons aux Italiens. Et je vais vous dire quelque chose, ça aura l'effet exactement inverse. Parce que les peuples n'aiment pas qu'on leur donne des leçons. Les peuples n'aiment pas ni les pères fouettards, ni les mères fouettards dans l'occurrence. Qui affirme avoir des instruments, on croyait des instruments de torture, il manque plus que l'accent allemand pour le dire. Voilà, je pense qu'effectivement, elle vient de donner un coup de pouce à l'Union des droites en Italie.
Les enjeux de ces élections en Italie avec Sybille Delettre.
Ils étaient réunis pour un seul et unique meeting, triomphal. Silvio Berlusconi, Matteo Salvini et Giorgia Meloni, les trois leaders de la droite et de l'extrême droite italienne, alliés dans une coalition inédite pour les législatives qui auront lieu dimanche.
Nous voulons une Italie forte, sérieuse et respectée sur la scène internationale.
C'est cette dernière qui pourrait s'installer dans le fauteuil de présidente du Conseil italien. La coalition des droites est donnée favorite avec 25% des intentions de vote.
La gauche est là, en train de répéter qu'elle a peur, mais ils ont peur parce qu'ils ont compris que leur système de pouvoir est sur le point de se terminer.
À 45 ans, Giorgia Meloni est à la tête du parti Fratelli d'Italia, héritier du fascisme, avec pour credo famille, religion et patrie. Mais depuis des mois, elle a tout fait pour lisser son image, à tel point que sa formation pourrait devenir le premier parti d'Italie.
En termes de politique, bien sûr, avoir Giorgia Meloni comme première ministre signifierait par exemple une plus grande protection des industries italiennes contre les investissements étrangers et bien sûr une vision plus stricte de l'immigration.
La clé du scrutin, le taux de participation, il pourrait atteindre un niveau historiquement bas, sous la barre des 70%.
Les enfants à l'école.
Philippe Guibert, Ursula von der Leyen, vous n'avez rien dit. Qu'est-ce que vous en pensez? De quoi elle se mêle en fait deux jours avant les élections? Pardonnez-moi de le dire comme ça.
C'est totalement déplacé, c'est une attitude antidémocratique. On laisse les gens voter, on laisse un gouvernement s'installer, le gouvernement en question prend des décisions et éventuellement à ce moment-là, on peut en rediscuter, mais dire ça à trois jours du vote, c'est totalement déplacé. Et puis en plus, c'est stupide parce que là-dessus, je vous accorde que ça va donner un coup de pouce à la coalition. J'ajoute quand même qu'il faut être prudent avec les élections italiennes parce que la règle en Italie, c'est qu'il n'y a pas de sondage dans les 15 derniers jours et qu'il peut se passer beaucoup de choses dans les 15 derniers jours. Par exemple, des variations de participation importantes.
Vous en rêvez. Vous espérez, Philippe Guibert, que cette union des droites ne fonctionne pas.
Non, il y a un vrai point d'interrogation, parce que je n'ai pas de parti italien qui ait ma sympathie particulière.
Ouais.
Mais le mouvement des 5 étoiles qui était dit en perdition, Tous les analystes italiens et même français de la politique italienne disent qu'il peut remonter. Oui. Donc, et puis il faudra voir dans la coalition des droites ce que fait M. Berlusconi qui a 86 ans.
En un mot.
Juste si je peux dire un mot sur Ursula von der Leyen, je crois que beaucoup de choses ont été dites, je suis d'accord. Elle est, je pense, Mme von der Leyen, l'incarnation paroxystique de l'Union européenne antidémocratique aujourd'hui. Voir cette femme qui parle comme un robot, qui n'a été élue par personne, qui s'exprime devant le drapeau américain, je pense que c'est son seul drapeau d'ailleurs, qui est en train de nous dire comment est-ce qu'il faut voter, comment est-ce qu'il ne faut pas voter, mais de qui se mêle-t-elle ? Et elle donne des points en démocratie libérale, mais c'est elle l'illibérale. Et quelques jours et quelques heures plus tôt, elle nous disait qu'elle était contre le cessez-le-feu en Ukraine. Alors elle a vraiment toutes les vertus, Madame von der Leyen.
Vous me faites la transition.
La guerre en Ukraine, elle doit continuer et la démocratie ne doit pas s'exprimer.
Vous me faites la transition justement sur la guerre en Ukraine, puisqu'il nous reste très peu de temps, et l'inquiétude qui gagne les Français. Vous avez deux Français sur trois qui aujourd'hui s'inquiètent des menaces d'un risque nucléaire après les propos tenus par Vladimir Poutine cette semaine. 63% très précisément qui ont peur que Vladimir Poutine utilise l'arme nucléaire. Et j'ai la sensation malheureusement que plus on avance dans ce conflit, plus on s'éternise dans ce conflit, plus le risque d'un conflit à l'échelle mondiale se précise. Et la dernière déclaration de Joe Biden m'inquiète également, puisqu'il promet une réponse rapide et sévère en cas d'annexion en Ukraine par la Russie. Et je vous rappelle qu'il y a ces prochains jours des référendums dans quatre régions ukrainiennes sur les annexions. Ah oui. Donc on va voir le sujet sur la menace nucléaire et ensuite on en parle.
Une large majorité de Français, 63%, ont peur que Vladimir Poutine recourt à l'arme nucléaire dans le cadre du conflit ukrainien. 37% ne sont pas effrayés. Une peur mesurée si l'on en croit le même sondage réalisé 6 mois plus tôt.
En mars dernier, ils étaient 76% à avoir peur du recours à l'arme nucléaire dans le cadre de ce conflit. Donc on voit que la peur a décru. La dernière fois, voilà, ils étaient 14 points de plus à avoir peur du recours à cette arme nucléaire.
La menace nucléaire inquiète toutefois les femmes à 70% contre 56% pour les hommes. Toujours dans le détail, la peur est plus présente chez les 65 ans et plus. 68% d'entre eux se disent effrayés. Les réponses varient aussi selon son appartenance politique.
Il y a une sorte de clivage politique avec une peur qui va être plus présente à gauche à 70% qu'à droite à 58%.
Les CSP-, c'est-à-dire les catégories populaires, ont à 70% peur de la menace nucléaire. Les plus favorisés, les CSP+, semblent moins inquiets. Eux répondent oui à 62%.
Alors on va voir, on va pas faire un tour de table. Vous allez lever la main qui fait partie autour de ce plateau des 63% de sondés qui ont peur de cette menace nucléaire avec Vladimir Poutine.
Sur nous ou sur la France?
Ah oui. Ou avez-vous peur que Vladimir Poutine utilise l'arme nucléaire? Non, pas sur la France, mais peut-être.
Ah, d'accord.
C'est ça la question. Avez-vous peur que Vladimir Poutine utilise l'arme nucléaire? Lève la main, celui qui fait partie de ces 63%.
Qui l'utilise?
Personne.
Non, je lève à moitié, parce que.
Comme la question. Vous levez à moitié? Non, on lève pas à moitié. Il n'y a pas de moitié.
Vous expliquez pourquoi? Parce qu'on pose une question qui est biaisée. C'est-à-dire que quand on parle du nucléaire, le français s'imagine qu'on parle d'armes nucléaires intercontinentales comme celles qui sont au Japon. Or, on parle depuis le départ des armes nucléaires tactiques. Voilà. Et personne n'explique ce que c'est. Alors c'est pour ça qu'on crée cette espèce de peur et que 63% des Français ont peur. On leur a pas expliqué que la menace de Poutine, c'est l'arme nucléaire tactique, que c'est l'arme nucléaire du champ de bataille. Voilà. En réalité, aujourd'hui, il menace de frappe nucléaire l'Ukraine. C'est ça la menace réelle.
Et oui, mais c'est-à-dire que c'est un tournant, ça n'a jamais utilisé, il n'y a jamais eu d'utilisation d'armes nucléaires tactiques dans les conflits, et que d'utilisation juste, même si c'est que sur l'échelle ukrainienne, c'est une catastrophe. Et vous entrez dans un conflit qui est tout autre.
Et la radioactivité risque d'arriver jusqu'ici. 63% de Français qui ont peur. On peur, entre guillemets, à tort, parce qu'on ne leur a pas expliqué de quoi il s'agit.
Karim Ibrik.
À tort, je ne suis pas certaine non plus. Je comprends que ça devient compliqué. On le sait, on a écouté plusieurs
spécialistes un peu, bien sûr.
Qui disent, écoutez, non, il ne va pas nécessairement faire ça. Il brandit, est-ce que c'est du bluff ou quoi que ce soit? Mais il y a quand même une menace, effectivement, nucléaire. Et il n'y a pas juste ça aussi. On vit déjà certaines conséquences de ce conflit. Et il y a cette escalade. Il y a le côté imprévisible aussi de Vladimir Poutine. Donc, il y a tous ces facteurs-là aussi qui rentrent en ligne de compte, quand même.
Le fait que Vladimir Poutine ait recours potentiellement potentiellement au nucléaire tactique, y compris en Ukraine, ça croît à mesure qu'il y a des déclarations bellicistes des deux parties. À mesure
la dernière, par exemple, de Joe Biden, vous inquiète.
Là, je voulais en venir. C'est que, à mesure que Vladimir Poutine se sent acculé, et on sait très bien que l'animal blessé est plus dangereux, et que, eh bien, un certain nombre de pays tiers, comme M. Erdogan en Turquie, ou M. Modi en Inde, ou le président Xi Jinping, appellent à un cessez-le-feu, mais que d'autres puissances occidentales, à commencer par Mme von der Leyen, refusent le principe d'un cessez-le-feu. Ce sont des va-t-en-guerre. Voilà ce que c'est.
Voilà ce qu'a dit précisément Joe Biden. Les États-Unis vont travailler avec leurs alliés et partenaires pour infliger des mesures économiques supplémentaires rapides et sévères à la Russie. Les référendums de la Russie sont un simulacre, un prétexte fallacieux pour essayer
de... Donc on parle de sanctions économiques. Je peux dire un mot.
Sanctions économiques.
La vraie manœuvre...
C'est votre technique pour en dire 10. Bien compris.
Je suis bien obligé. À 1 contre 4, 5...
Allez-y, Philippe.
On est obligé d'être... On est obligé de payer le soir.
Allez, donc, Philippe, allez-y.
Non, la vraie menace de Poutine, la vraie manœuvre de Poutine, c'est effectivement ces référendums qui consistent, comme ils sont fantoches, à annexer 4 régions ukrainiennes. Et donc, à partir du moment où elles sont annexées, c'est la Russie. Et donc, une attaque contre ces régions ukrainiennes devient une attaque contre la Russie. D'où, effectivement, comme vous avez tout à fait raison, la menace nucléaire, elle est sur l'armée ukrainienne et sur les Ukrainiens. Comment répondre à ça? Là, Biden parle de sanctions économiques. Je ne pense pas que ce soit des sanctions économiques qui vont arrêter Poutine. Mais moi, j'entends ce que tu dis, Paul. C'est très bien, des négociations, on serait tous pour. Mais pour avoir des négociations, il faut avoir des gens qui veulent négocier. Et j'ai jamais vu, pardon, je termine d'une phrase... Poutine accepter le principe d'une négociation.
Mais personne ne l'a proposé, enfin.
Parce que l'Occident, bien sûr,
Marc Varno.
Oui, si je peux me permettre. Il y a 4 sujets qui sont totalement connectés et que l'on déconnecte. La mesure, les menaces nucléaires est à connecter avec le référendum, la mobilisation et la Rasputitsa, cette fameuse boue qui arrive. Il est dans une lutte, dans une course contre la montre, Poutine. Et il sait que dans 8 jours, il va être protégé par ces nouvelles frontières qu'il a créées par ce référendum bidon, par ces 300 000 hommes qui va mobiliser, Dieu sait combien viendront, et par l'hiver qui va s'installer. Il est en train d'installer un statu quo, Poutine. Et ce statu quo, je suis assez optimiste, c'est sans doute le meilleur moyen pour pouvoir avoir enfin une négociation.
Oui, enfin, la situation militaire va être gelée.
La situation militaire va être
gelée. L'image de fin, ni Moscou
pour le moment ne veulent de ce statut.
L'image de fin.
C'est ce qu'il est en train de préparer.
Messieurs, dames, l'image de fin. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un militant écologiste. Et c'est un sujet qui est tout autre. Qui met le feu à son bras. Regardez cette image. En plein milieu du cours, lors de la Laver Cup. C'est la compétition, d'ailleurs c'est la dernière compétition à Londres, de Roger Federer, la plus grande légende de l'histoire du tennis. Donc un militant écologiste a pénétré sur le court, s'est assis par terre et a mis le feu à son bras. Il s'agit d'un militant du groupe End UK Private Jets, fin des jets privés britanniques. Il est âgé de 20 ans, militant qui s'est fait remarquer donc lors de la Laver Cup. Quel regard vous portez, peut-être Paul Melun? Jean Messia, allez-y, mais pas de blague, soyez sérieux. Jean Messia, pas de blague. Premier degré, s'il vous plaît.
Ce geste n'a pas amélioré le bilan carbone du cours. Voilà, je vous dis. Si on a des gens qui arrivent à cette folie d'autodestruction.
Remettez les images.
D'autodestruction,
s'il vous plaît.
Pour des causes qui, pour nobles qu'elles soient, n'en sont pas quand même à s'immoler par le feu. Je veux dire, là, on a perdu tout sens de la raison.
On est dans l'activisme déraisonnable d'un jeune homme qui, manifestement, ne sait pas très bien comment exprimer ses convictions.
C'est un déséquilibré.
Je veux dire, en tout cas, si vous voulez, ça ne s'apparente pas à une action très, très bien
pratiquée intellectuellement. C'était les bons qui s'immolaient par le feu.
Enfin, en tout cas, ça marche puisqu'on en parle.
On en parle. Karima, ce sera à vous.
C'est un geste désespéré et en même temps, je trouve que ça témoigne...
Désespérant.
Oui, absolument. Et ça témoigne aussi d'un désespoir chez plusieurs jeunes. On parle beaucoup d'éco-anxiété. Il y a toute une génération aussi qui se jette là-dedans.
On va faire l'émission là-dessus.
Là-dedans. Et on voit ce que ça peut donner, malheureusement.
Ah oui, c'est une mauvaise chose. Et comme je le disais, ils reprennent en réalité ce que faisaient les bons pendant la guerre du Vietnam. Donc l'image est forte pour ceux qui ont connu cette période. Le fait de s'immoler, c'est lourd de symboles.
Et l'éco-anxiété, vous avez maintenant, moi je l'ai appris récemment dans un certain nombre d'universités françaises. Des psychologues qui s'occupent des élèves qui sont en éco-anxiété, parce que vous avez des milliers d'élèves dans les universités françaises qui sont en éco-anxiété. anxiété, les pauvres. Alors là, vraiment,
je suis en déco-anxiété quand je vois la dégradation de l'état de la France.
Philippe Guibert, qu'est-ce que vous pensez de cette image-là et de ce geste?
Non, mais c'est une nouvelle forme de militantisme que je connaissais pas.
Irrationnel.
Et que je trouve grave. Enfin, je veux dire, le type se brûle. Enfin, là, on plaisante et je comprends. Mais enfin, il doit être brûlé à un certain degré grave. Enfin, je veux dire, il peut
se brûler. J'aurais aimé, pour terminer cette édition, vous montrer les images de Roger Federer. Vous allez les découvrir dans l'édition de la nuit avec Barbara Durand.
Nous allons rester avec Barbara Durand.
Je remercie France Godfrappe qui a préparé cette émission, ainsi qu'Inès Latrèche et toutes les équipes techniques en régie. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Karima, vous avez joué des coudes et vous avez bien joué. Parce que franchement, ils n'arrêtent pas de parler. Jean Messia, c'est pas possible. Philippe Guibert qui dit un mot, il en fait 15. Jean Messia, je suis obligé.
Voilà, c'est ça.
En tant que minoritaire, je suis obligé.
Vous savez que Jean Messia, vous pouvez le retrouver tous les jeudis au point virgule. Il enchaîne, il récupère toutes les blagues qu'il a faites dans Soir Info.
Il le fait,
gratuit, c'est ouvert à tous.
Ouais, c'est ça, il fait un rap, je pense.
Donc voilà, merci à tous les cinq. C'était un plaisir de vous avoir ce soir. On a pu traiter de beaucoup de sujets. Parfois avec le sourire, et c'est aussi ça dans la bonne ambiance. C'est comme si on était autour d'une table finalement. Rien à manger.
Faut balader.
Ouais, parce qu'on a... Merci. Vous connaissez la règle. Wesh la détaille comme il dit. Allez, à demain.
Tu fais demain soir.
Ouais.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.